Bonsoir, j'espère que je vais parler assez fort pour vous. Et comme Mme Bank l'a dit, je suis particulièrement touché d'être là puisque ma famille était non pas savoyarde tellement, mais enfin non, estivalement savoyarde. Et pendant l'occupation, était ici et mon arrière-grand-mère est enterrée décédée de sa belle mort pendant l'occupation à février. Et mon père a eu des émotions nautiques dans un club interdit aux Juifs, un club nautique baltique qui était interdit aux Juifs, mais comme on était en maillot de bain, ça ne se voyait pas. Et donc, enfin voilà, c'est une première émotion nautique sur le lac d'Annecy pendant l'occupation de la palette de refuge ici. Donc, je suis lié indirectement à cette région. Et ça, sur le côté personnel, et puis évidemment, je pense que la plupart d'entre vous ont la même pensée pour ce qui se passe en Israël, en espérant que justement nous ne vivons pas un petit morceau d'apocalypse, au contraire. Bon, maintenant j'en reviens à mon sujet. Je vais diviser mon intervention en deux parties. La première, on va essayer de comprendre historiquement de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que l'apocalypse, et d'un point de vue juif, et de l'autre, on réfléchira à la notion elle-même. Alors, dans la première partie, on va faire donc une introduction historique, ça va être un petit peu érudit, mais c'est nécessaire, je pense que des choses que les gens ne connaissent pas, parce que tout le monde connaît, évidemment, quand on dit apocalypse, en général les gens connaissent l'apocalypse de Jean, donc, de l'évangéliste, et savent le premier verset, « Commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu ». Enfin, les gens savent ça. Au-delà, ça devient très difficile déjà ce texte-là, alors les autres, c'est même pas la peine. L'Apocalypse, ça a un double sens. Il y a l'idée de fin des temps, donc l'accomplissement de promesses, de prophéties, et fin du monde, donc d'où le fait que ça reste un sujet d'actualité, on y reviendra, notamment à travers le cinéma hollywoodien. Très intéressant de voir le nombre de films qui sortent là-dessus. Et puis, il y a une autre idée qui n'a rien à voir, qui est très différente, c'est l'idée de dévoilement. Et c'est d'ailleurs le sens premier d'Apocalypse, hein, qui vient du latin, apocalypsis, qui veut dire révélation divine. On va parler des deux aspects dans la conférence. Alors, d'abord, le but des écrits apocalyptiques, il est de révéler des mystères au-delà des limites de la connaissance normale. Il y a des secrets dans les cieux, des secrets qui touchent à l'ordre du monde, il y a des noms particuliers, des noms mystiques, il y a des fonctions d'êtres particuliers qu'on appelle les anges, les malachim. Il y a également l'explication dans les textes apocalyptiques de phénomènes naturels, tremblements de terre par exemple, éclipses. Il y a également des allusions au secret de la création et à la fin des jours, avec d'autres questions qui sont des questions eschatologiques, donc de la fin des temps, et même de la nature de Dieu lui-même. C'est un sujet évidemment compliqué. Donc ça touche à beaucoup de thèmes, la littérature apocalyptique, et le terme lui-même apocalypse, eh bien on le connaît par l'Apocalypse de Jean. D'accord, l'Apocalypse de Jean qui date du IIe siècle. Mais on le connaît dans le monde chrétien, c'est pas considéré comme un texte juif, même si c'est écrit par un juif, et qu'il y a même une tentative, je vous signale pas inintéressante, mais c'est pas mon sujet, j'ouvre une parenthèse, d'en faire un midrash, une rétro-traduction qui a été publiée chez Gallimard, qui qui s'appelle Portrait d'Israël en jeune fille. C'est un essai assez intéressant. Portrait d'Israël en jeune fille. Bon, mais ce n'est pas mon sujet. Donc, ce terme apoyokaïs apparaît là-bas, et on l'applique en général dans le langage courant, donc à l'Apocalypse de Jean, ou éventuellement à d'autres textes chrétiens qui s'en approcheraient. On parle des apocalypses. Dans les textes juifs, on parle, dans le Talmud, on a le terme de Gilayon. Et Gilayon, c'est un terme qui est ambigu parce que ça peut aussi bien vouloir dire rouleau que chose découverte. Galouille, c'est quelque chose qui est dévoilé. Donc c'est d'où le nom de Gilayon. Et en général, on pense que ces textes appelés Gilayon se réfèrent à des écrits apocalyptiques. Je vais vous citer maintenant le Talmud, dans le traité Shabbat, qui nous dit « Ces écrits et les livres des hérétiques ne doivent pas être sauvés d'un incendie, mais peuvent brûler, où qu'ils se trouvent, eux et les noms divins qui y sont écrits. » Alors, de quoi on nous parle ? Il y a une règle dans le traité Shabbat, et à la page 116a, ceux qui sont capables d'aller voir là-bas, il y a un principe que s'il y a un incendie Shabbat, normalement on n'éteint pas le feu, on ne l'allume pas non plus, vous allez me dire, donc ça évite les incendies, mais enfin, s'il y a un incendie, normalement on n'éteint pas le feu, sauf pour sauver une vie, et la question qui se pose dans le Talmud là-bas, c'est de savoir, est-ce qu'on peut sauver des objets ? Bon, je vous passe la discussion, en fait, on arrive à la conclusion qu'on peut sauver beaucoup de choses, mais peu importe la discussion, sauver les objets, les transporter le Shabbat, les sortir de la maison vers un autre lieu, c'est une transgression du Shabbat. Et donc, la question qui se pose est de savoir si on a le droit de transgresser le Shabbat pour sauver certaines choses. Alors, pour sauver une vie humaine, la question ne se pose pas. Mais pour sauver les bijoux de la grand-mère, c'est pas forcément important. Tant pis pour les bijoux. Si, par contre, les livres saints, c'est le côté intéressant de ce texte, les livres saints doivent être sauvés puisqu'ils sont mis en quelque sorte sur le même rang qu'une vie humaine. Donc on sortait les rouleaux. Mais, et c'est là le texte qui nous intéresse, on va les sauver sauf certains écrits qu'on considère comme n'ayant pas suffisamment de valeur ou au contraire méritant peut-être de brûler. Donc c'est notamment les livres des hérétiques, mais aussi les Gilayon, c'est-à-dire, semble-t-il, d'après les chercheurs, mais c'est une supposition parce qu'on ne sait pas ce que c'est que ces Gilayon précisément, ce seraient des textes apocalyptiques qui circulaient à l'époque. Et les chercheurs pensent que les rabbins du Talmud, les Tanaïm, n'auraient pas une telle attitude vis-à-vis des textes qui seraient considérés comme plus acceptables, comme ceux qu'on connaît, qui sont des apocalypses juives connus, comme Baruch, en syriaque, Ezra numéro 4, pour exemple, vous voyez des textes comme ça qui sont des textes extra-canoniques, que le grand public ignore bien évidemment, mais qui existent, qui ne sont pas très passionnants à lire entre nous, hein, ce ne sont pas des textes très faciles. Et ces textes abondent en piété religieuse, en morale, parce qu'il n'y a pas qu'un message de fin des temps, il y a aussi des leçons de morale. Et donc, on pense, les chercheurs pensent que ce n'est pas de ces textes-là dont il s'agirait, qu'on n'aurait pas à sauver, qu'on laisserait brûler exprès. Donc ce serait plutôt, mon petit passage talmudique, une controverse contre des textes qu'on n'aime pas, qu'on rejette, et qui seraient des textes gnostiques ou des textes du tout début du christianisme, puisque ce texte du Talmud date de la même période que la rédaction, plus ou moins, de l'évangile l'Apocalypse de Jean. Bon. En tout cas, ça vous montre, ce texte, pourquoi je le cite, parce que ça vous montre, d'une part, qu'il y avait des textes dont on ignore précisément le contenu, mais qui circulaient à l'époque, et ça montre aussi l'hostilité des rabbins du deuxième siècle, du troisième siècle plutôt, à l'encontre de ces textes. Mais en même temps, les gens les ont, sinon il ne serait pas question de les sauver de l'incendie. Les gens les ont dans leur bibliothèque tout de même. Donc vous voyez l'ambiguïté. On les a, on les lit, mais il faut les laisser brûler. Alors, le terme chez Daniel, le prophète Daniel, là, lui qui fait partie du canon biblique, et le terme employé dans des manuscrits qu'on a retrouvés à la Mer Morte, le fameux manuscrit de Qumran, et dans la bibliothèque de Qumran, il y a beaucoup d'écrits apocalyptiques, eh bien, utilise le terme de chazon, vision. Vous voyez ? Et c'est lié à Apocalypse, parce que littéralement, Apocalypse, c'est le dévoilement. Celui qui a une vision, qui a un chazon, eh bien, il voit des choses que les autres ne voient pas. Et donc là-bas, on emploie ce terme-là, de chazon. Alors, la période de l'Apocalypse juive, c'est une période qui va du deuxième siècle avant l'ère courante jusqu'au deuxième siècle après. Donc ça dure à peu près 400 ans. Et pendant 400 ans, on écrit des Apocalypses. Vous voyez, on a largement élargi là, le champ de vision par rapport à notre fameuse Apocalypse de Jean, qui elle vient en fait à la fin de ce processus, qui a commencé 400 ans avant la rédaction de l'évangile, de l'Apocalypse de Jean, qui ne met pas dans un terrain vide. D'un point de vue juif, enfin même chrétien, d'ailleurs, on parle de textes extra-canoniques. D'accord, c'est pas des textes qu'on trouve dans les écrits canoniques. Par contre, c'est des textes. Vous avez un très bon volume à la Pléiade des textes qu'on appelle intertestamentaires. Donc, vous avez aujourd'hui, on publie beaucoup ces textes retrouvés. Le texte de la Pléiade date déjà un petit peu. Depuis, il y a des nouvelles publications. Bon, c'est des livres qui sont tout à fait chers et forcément, c'est pas des best-sellers. Mais ceux qui s'intéressent à ce genre de littérature. Pour vouloir hein, vraiment s'y intéresser, c'est pas de la littérature très. Si vous avez des insomnies, vous pouvez en lire quelques pages, vous ferez des cauchemars, mais c'est pas grave, au moins vous dormirez. Et donc, vous pouvez acheter les œuvres complètes. ça vous aidera à dormir. Bon. Donc, tous ces textes-là aujourd'hui sont beaucoup plus publiés qu'avant. Et. Quelle est l'hypothèse de base de cette littérature? Vous voyez, c'est un corpus qui n'est pas défini, mais c'est un genre littéraire. L'hypothèse de base, c'est que la prophétie qui avait cessé, il faut bien comprendre ça, je pense que c'est très intéressant par rapport au dialogue judéo-chrétien, parce que on est en plein dans la période de naissance du christianisme. On est encore dans la période pré-christianique. Eh bien, l'hypothèse de base, donc la prophétie a cessé, elle a terminé, la Bible est en train de se canoniser, donc on ne va pas ajouter ad aeternam de nouveaux textes. Et la prophétie, normalement, ne devrait se renouveler dans la vision de l'époque que à la fin des temps. À la fin des temps, la possibilité prophétique devrait revenir. Je vous signale que c'est ce que pensent toujours certains rabbins. Notamment le fameux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, mais le Rav Abraham Kook, qui était grand rabbin, non pas d'Israël, parce que c'est avant la création de l'État d'Israël, mais du Yishuv, pensait vraiment que le retour des Juifs sur leur terre pourrait permettre le renouvellement de la prophétie. Et les mystiques juifs ont à plusieurs reprises espéré le retour de la prophétie. Donc, on ne va pas renouveler la prophétie tout de suite, il faut attendre la fin des temps. Donc, par conséquent, les auteurs des Apocalypses ou les auteurs apocalyptiques, vous les appelez comme vous voudrez, attribuent leur propre enseignement soit à des hommes qui ont vécu à l'époque prophétique. C'est pour ça que vous avez le livre, j'ai cité tout à l'heure, de Baruch, d'Ezra le scribe, Baruch qui était le secrétaire de Jérémie. Vous voyez, donc, on attribue ça à des personnages, non pas antidéluviens, mais de l'époque encore prophétique, donc il y a longtemps. Et même ces personnages, cette brochette de personnages bibliques qui peuvent avoir inspiré, ça va de Adam, carrément. C'est comme ça qu'on va avoir des livres écrits par Adam, jusqu'à Daniel. Donc on va avoir d'autres textes sous l'appellation de Daniel. On va aussi, par exemple, un texte dont on parlera, sur lequel on va revenir un petit peu, qui est le livre d'Enoch. Enoch est un des personnages de la Genèse au tout début, c'est un personnage qui vit des centaines d'années. Voilà. Donc, soit on leur attribue ces livres, ça fait que ça donne à ces écrits une force, puisqu'on dit, voilà, j'ai retrouvé le livre écrit par Adam, j'ai retrouvé le livre écrit par Abraham, j'ai retrouvé le livre écrit par Enoch, par Noé, par je sais qui. Ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de dire qu'on est inspiré par un ange. Je ne suis pas prophète, mais un ange est venu me dire des choses. Alors, évidemment, ça va faire peut-être un peu tilt, ou pas tilt au sens positif, mais dans la tête des chrétiens, parce qu'on retrouve ça dans les écrits chrétiens. Dans les manuscrits de la Mère Morte, il y a une exception, c'est l'enseignement que Dieu lui-même fait connaître au Moretzédek. Le Moretzédek, c'est l'enseignant de justice, littéralement, qui est le leader de la secte de la Mère Morte. Et on nous dit ceci: tous les mystères des paroles de ses serviteurs, les prophètes. Donc lui-même est inspiré par Dieu et il considère qu'il y a des prophètes. C'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une école qui considère que la prophétie ne s'est pas arrêtée. Alors, l'Apocalypse, comme genre littéraire, a vu le jour en raison de la conscience de ses auteurs que leur génération, donc le moment où ils vivaient, était la dernière génération. Et ça, je cite un des manuscrits de la Mère Morte quand je dis la dernière génération. C'est-à-dire que ces gens-là, qui vivaient il y a 2100 années, eh bien, considéraient qu'ils vivaient, ils étaient contemporains de la fin du monde. Et du coup, ils avaient besoin de l'exprimer, et d'où cette littérature de l'Apocalypse. Et évidemment, c'est très important pour comprendre ce que c'est que cette littérature, et c'est très important dans l'histoire du christianisme. Encore une fois, le christianisme, ce n'est pas mon sujet. Mais il est évident que les tout premiers chrétiens sont convaincus que c'est la fin des temps, immédiatement. Ils n'ont pas imaginé que le christianisme deviendrait une bien vieille religion avec 2000 ans d'histoire et tous les soubresauts qui ont pu la traverser, loin de leur pensée. La fin des temps, Ketsayamim en hébreu, eh bien, est conçue comme un processus cosmique qui est accompagné par des bouleversements dans la nature, je parlais des tremblements de terre, et les événements sur terre, c'est-à-dire les bouleversements terrestres, les guerres notamment et les invasions. On vit une période où l'Empire romain envahit la région, où l'Empire grec, parce qu'il en restait, disparaît, mais où il y a une résistance aux Romains par les Parthes. Enfin donc, il y a des grands empires, et bien ces événements sur Terre ne sont qu'un simple écho de la guerre finale entre les forces cosmiques. Et ça, c'est très important de le comprendre. Les guerres terrestres, les guerres humaines sont le reflet de forces cosmiques et de guerres cosmiques. Star Wars. Ah oui, Star Wars vient de là, complètement. Je ne vais pas me mettre à vous faire un commentaire rabbinique de Star Wars. Mais Star Wars, c'est un. Non, mais c'est sérieux, c'est un film qui est complètement inspiré de la mystique juive, jusqu'au nom des personnages, et Maître Yoda qui dirige le tout. Rabbi Yehuda a dit que la force soit avec toi et qu'il ne passe pas de l'autre côté. Sitra Acha en araméen. Tous ceux qui ont fait un peu de cabale connaissent ça. Bon, alors, donc, laissons Star Wars, et dans le monde de l'époque, voilà ce qu'on nous dit dans un des manuscrits de Qumran. Je ne vous donne pas les références, vous avez les références de Qumran, vous savez, c'est des chiffres. On a l'impression que vous allez croire que je vous donne une adresse email codée ou le code de ma carte bleue, donc c'est pas. Donc, l'armée céleste donnera de la voix, les fondements du monde seront ébranlés et une guerre des puissants des cieux couvrira le monde entier. C'est très intéressant l'expression, les puissants des cieux, vous voyez, les puissances célestes vont amener les humains à s'entretuer, à faire des guerres de ceux qui ont choisi le bon côté contre ceux qui auront choisi le mauvais côté. La guerre de ceux de la lumière contre la guerre de ceux de l'obscurité. C'est un des thèmes d'un des manuscrits de Qumran. Star Wars encore. Ah oui. Décidément, on va aller au cinéma après, tous. Le revoir avec bonheur. Mon fils est fou de Star Wars. Mon fils est petit, hein. Il a 12 ans. Donc, dans la vision apocalyptique, la rédemption d'Israël prend une forme beaucoup plus éloignée de la réalité historique que dans les œuvres prophétiques. Et ça, c'est important de le comprendre également. Dans les prophéties, vous avez aussi une vision de l'histoire, avec des événements qu'on prévoit qui sont censés s'ancrer dans l'histoire. Par exemple, le fait que Jérusalem sera reconstruite, le fait que les exilés vont revenir. Mais ces événements décrits chez les prophètes sont des événements réalistes. Ça parle de choses réalisables et compréhensibles dans le monde historique dans lequel c'est décrit. Alors que le propre de l'Apocalypse, c'est qu'on sort du cadre réaliste pour entrer dans un cadre beaucoup plus imaginaire et cosmique. Par exemple, le Messie, eh bien, dans les textes apocalyptiques, c'est un personnage surhumain. Alors que dans les textes prophétiques, bon, c'est pas clair s'il y a vraiment un Messie, je ne veux pas vexer les chrétiens là-dessus, mais les prophètes ne parlent pas véritablement d'un Messie, mais ils parlent, en général, alors que le Messie c'est une fonction, c'est le fait d'être loin, ils parlent d'un roi. Mais on déclare Messie différents personnages, dont le roi Ézéchias et d'autres. Parce que c'est tout simplement quelqu'un qui va prendre de bonnes décisions politiques. Donc si on a un dirigeant qui prend de bonnes décisions politiques, comme tous les dirigeants sont loin par nature, parce qu'ils ne peuvent pas prendre leur fonction sans être loin, on va dire, voilà, c'est loin qu'on les a promis. Donc il n'y a rien de plus surnaturel que ça. Alors que dans les textes apocalyptiques, les personnages messianiques sont des personnages surhumains. Alors, la raison de tout ça, c'est que la vision apocalyptique, elle met l'accent, c'est très important, sur l'imminence de la fin, et qui ne laisse pas beaucoup de temps, voyez, au développement historique. Un développement historique normal. Ça ne permet pas un processus politique ou historique classique de se développer. C'est pourquoi la littérature apocalyptique est très liée à l'idée de repentance. Ah oui, faites teshuvah, on est heureux, pendant qu'il est encore temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Donc il est temps de se réveiller, c'est la fin qui arrive. Alors, il y a cette leçon de morale qui va accompagner cette vision cosmique de la fin des temps, à savoir la victoire finale des forces du bien contre les forces du mal. Alors, de nouveau, on a Star Wars au rendez-vous. Et évidemment, un début de cette littérature, c'est de dire que les malheurs dans lesquels nous sommes plongés et la période de trouble que nous vivons va prendre fin. Mais la morale elle-même, elle prend son essor, si vous voulez, son expression, dans l'aboutissement du processus, et pas dans le début. Dans les premiers stades, c'est le balagan, c'est le bazar. Dans un deuxième stade, on va ramener l'ordre. Et ça explique un point important de la littérature apocalyptique, qui est un certain fatalisme. Puisque ce n'est pas les hommes qui provoquent ça, c'est les forces cosmiques qui font cela. Vous voyez ? Si c'était les hommes, je peux dire, voilà, j'ai une possibilité d'agir sur l'histoire. Dans la vision apocalyptique, c'est l'inverse. C'est les hommes qui sont les marionnettes des forces cosmiques. Mais la littérature apocalyptique, elle ne se contente pas de parler de questions de fin des temps, il y a autre chose. Elle voit l'histoire universelle de bout en bout, comme un processus qui a ses propres lois. Ça aussi, c'est très important. L'histoire humaine, l'histoire du monde, va dans une certaine direction. Donc la vision apocalyptique, elle ne va pas parler seulement de l'avenir, elle va aussi parler du lointain passé, qui prend son sens dans l'avenir. Et du coup, l'histoire du monde est vue comme une espèce de chaîne de royaumes spécifiques qui ont leur sens dans une trame cosmique de l'histoire, et selon un principe qui est évidemment déterministe. C'est-à-dire que l'histoire est écrite à l'avance. De plus, on a des cas dans la littérature apocalyptique de visions qui voient la fin des temps comme un retour au temps de départ. C'est-à-dire qu'on revient à la case départ, comme au Monopoly. Et du coup, c'est important parce que c'est les visions de la case de départ, c'est le Gan Eden, le jardin d'Éden, qui est un certain ordre dans la création vers lequel on pourrait revenir. Dans les apocalypses, la plupart des mystères sont révélés par des anges, je l'ai dit, et il arrive également un autre moyen dont je n'ai pas encore parlé, pour savoir les vérités, eh bien c'est d'aller les chercher. Et où est-ce qu'on va chercher les vérités cosmiques? Dans le cosmos, tout simplement. Donc vous avez dans les écrits apocalyptiques des voyages de personnages qui montent au ciel, qui visitent, et qui redescendent et vous racontent. Ça fait beaucoup fantasmer les gens qui croient aux ovnis. Hein. Il y a toute une littérature comme ça, des gens qui disent qu'il y aurait des témoignages de gens. Alors, on est passé de Star Wars à Rencontre du troisième type. Et donc, il y a toute une littérature comme ça aujourd'hui, des gens qui cherchent des traces. Mais dans la vision de l'époque, ça s'explique très bien. Puisqu'il y a un monde cosmique, il est normal que le personnage inspiré vous raconte ce qu'il a vu dans le cosmos. dans ce monde céleste. Le cosmos, c'est pour le sens que nous l'entendons, nous. Hein. On n'est pas en train de mettre un satellite et un télescope sur orbite, hein. C'est pas Hubble. Mais donc, ils vous racontent ce qu'ils ont vu. Évidemment, là, il y a des personnages clés. Puisque Enoch s'en va au ciel, Élie s'en va au ciel, donc ces personnages, évidemment, détiennent une certaine vérité. Et on a voulu voir une influence perse sur ces textes apocalyptiques, du fait que souvent il y a des descriptions d'animaux, on les retrouve dans l'Apocalypse de Jean, de bestioles extraordinaires, et qu'on retrouve dans le folklore mystique perse, mais il y a une spécificité vraiment de cette littérature juive qui n'a pas son équivalent ailleurs. Le seul livre apocalyptique inclus dans la Bible d'un point de vue juif, c'est le livre de Daniel, qui est en fait le tout début de cette littérature, même si on peut en trouver des traces déjà dans Zacharie et d'autres des derniers prophètes, qui sont déjà un petit peu apocalyptiques, mais chez Daniel c'est beaucoup plus fort. Le livre de Daniel, on le date de la révolte des Asmonéens, donc moins 167 à peu près, et les visions, les symboles sont devenus, du livre de Daniel, sont devenus une espèce de prototype qu'on va recycler dans la plupart des écrits apocalyptiques plus tardifs, que ce soit des écrits juifs ou chrétiens. Alors on a les idées Enoch, le Jubilé, le Testament des 12 patriarches, etc., etc. Donc on a tout un tas d'ouvrages comme ça. Et apparemment, la plupart des ouvrages ont été écrits à l'époque de Jean Hyrcan. Il y a Hyrcanos, qui est un des rois asmonéens, qui, à l'époque, semble-t-il, justement du fait de l'arrivée des Romains, on interprète ça comme un moment de fin du monde. Ces ouvrages reflètent tous un mouvement apocalyptique organisé. Ça aussi, c'est très important. Qui va trouver corps, et c'est pas juste un illuminé dans son coin qui écrit ça, dans sa grotte, ça va trouver corps dans la secte de Qumran, qui est une véritable organisation, et qu'on associe aux Esséniens, mais enfin là, on va pas rentrer dans les détails de Qumran, c'est compliqué, et dont la vue apocalyptique va influencer la vie des gens, au quotidien, parce que les gens doivent faire leur choix. Et du coup, ça, dans la secte de Qumran, il y a des règles qu'on doit suivre qui sont liées complètement à l'idée d'Apocalypse. Et ça y a un code moral, un code de conduite, un code de pureté, parce qu'on doit être prêt pour le moment où ça va se dévoiler. Et les écrits de ce mouvement, en particulier le livre d'Enoch, le testament des 12 patriarches, donc on associe au monde essénien, contiennent les premières références à une véritable mystique juive qui va continuer son histoire plus tard. Et il y a également de nombreux points de comparaison, mais c'est très compliqué, entre les littératures, je dis bien les littératures au pluriel apocalyptiques, et la littérature talmudique. On va retrouver, si vous voulez, le dualisme apocalyptique qui est à la fois historique et cosmique, avec l'idée qu'il y a un monde ici et il y a un monde là-bas, Olam Haba en hébreu, le monde qui vient, le monde futur, qui n'est pas forcément que le monde après la mort, c'est plus compliqué que ça. Et cette croyance-là a été acceptée par tout Israël. C'est une croyance commune dans l'Israël de l'époque, dans les principaux textes. Mais les racines de cela se trouvent dans la littérature apocalyptique. Comme quoi, c'est pas une littérature qui est complètement isolée, qui n'a pas d'influence sur l'ensemble de la société. De sorte que dans le Talmud lui-même, on a des vues apocalyptiques, on a des textes sur le paradis, sur l'enfer, sur le sort des âmes après la mort, sur le Messie, sur le monde qui vient, la description des différents cieux, des différents étages dans les cieux, Avec toute une angéologie très compliquée. Et donc, on retrouve tout ça dans le Talmud. On a également le mystère divin, Maaseh Merkava. On a le mystère de la création, Maaseh Bereshit, qui peu à peu sont devenus des sujets privilégiés de la mystique juive, qui va s'appuyer principalement là-dessus. Et on a également une influence très forte sur les différents midrashim. Vous savez, c'est une littérature extrêmement vaste, le midrash, le Talmud, des volumes et des volumes. Donc, on voit que ça a une très forte importance, toute cette histoire d'Apocalypse, et ça a une influence plus tard sur la littérature de la mystique juive médiévale, et notamment sur le Zohar, le livre de la splendeur, qui est le grand livre de la Kabbale, et sur la pensée chassidique, qui elle vient plus tard, puisque c'est un mouvement qui est né au XVIIIe siècle en Pologne. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui s'arrête totalement, même si, je vous l'ai dit, ça va du deuxième siècle avant la courante jusqu'au deuxième siècle après. C'est l'Apocalypse de Jean clôt cela, plus ou moins. Alors, je passe à la deuxième partie de mon intervention, et on va réfléchir à ce que l'Apocalypse nous raconte un petit peu, pas le texte, parce qu'on n'a pas, on va pas éplucher un texte en particulier, mais la notion. Je tiens à préciser, mais c'est une évidence, vous le savez, que je parle ici en tant que juif. Donc je ne veux pas m'intéresser à la vision chrétienne des choses, même si on peut en parler bien évidemment. Et du coup, le fait de parler en juif influence les choses. Parce que dans le judaïsme, évidemment, vous le savez, il y a une histoire longue, et il y a cette histoire, elle est le résultat d'un entêtement à exister, une certaine patience, on n'est pas pressé. Oui, c'est tout à fait dans le sens inverse de la dynamique de l'Apocalypse, ce que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis ça. On a un certain sens des mots, on aime bien jouer avec les mots, mais puisque l'Apocalypse a un double sens, fin des temps, mais aussi dévoilement, on a aussi une idée dans le judaïsme d'un Dieu invisible, qui ne se dévoile pas vraiment facilement, il ne se laisse ni voir, ni saisir, ni même nommer. Donc, a priori, on n'est pas très apocalyptique. Et encore que, on a ces textes dans nos bagages, même si tous les textes que j'ai cités dans mon introduction historique ne font pas, je répète cela, ne font pas partie du canon biblique juif et ne font pas partie des textes de référence du judaïsme. Que ce soit bien clair. Ce sont des textes qu'on connaît par l'archéologie, sinon on ne les connaîtrait pas. Par contre, on voit leur influence, comme j'ai dit, dans des textes midrashiques, dans des textes talmudiques, mais ce n'est jamais central. C'est toujours quelque chose un peu qu'on laisse sous le manteau, même s'ils apparaissent dans les textes talmudiques qui sont censés être lus, en tout cas accessibles à tous. Alors réfléchissons un petit peu à certaines notions. La première notion, c'est la fin des temps. D'accord ? J'ai dit qu'il y avait deux sens, fin des temps et dévoilement. On va réfléchir aux deux sens. Fin des temps. D'abord, la question du temps lui-même, c'est une question très intéressante, qui est une question difficile à comprendre. Après tout, est-ce que le temps existe vraiment ? On va me dire, vous êtes gentil, vous êtes un peu jeune encore, je commence à vieillir un peu. Mais le temps existe à notre niveau individuel. Mais est-ce que véritablement c'est quelque chose de consistant? On peut très bien critiquer cette idée. On peut très bien dire que le temps n'existe pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la création peut la voir comme immuable, c'est la vision des Grecs, un monde qui ne bouge pas, un monde qui tourne sur lui-même, rien ne change. Et peut-être que nous, petits êtres humains, on a notre temps limité, mais le temps lui-même n'existe pas. Et on peut aussi, d'un point de vue plus moderne, contester l'existence du temps en disant, alors ça c'est de la physique quantique, c'est que rentrant dans des considérations de théorie d'astrophysique actuelle, c'est que carrément le passé, le futur, tout ça, ça se mélange. En fait, vous vous croyez à l'instant T, c'est votre illusion, mais sur le plan cosmique, ça n'a aucun sens. Alors, il y a eu, d'ailleurs, Hollywood se nourrit abondamment de ce genre de scénario. Mais l'idée de temps, l'idée d'histoire, ce qui dit temps dit histoire, est une idée qui ne va pas de soi. Enfin, nous, on vit dans une civilisation qui est basée là-dessus, qui va de soi. Si je vous dis que l'histoire n'existe pas, vous me dites qu'elle raconte. Mais vous avez des civilisations humaines pour lesquelles l'histoire n'existe pas. Ça n'a aucun sens, parler d'histoire. Or, pour la Bible, ça c'est un verset de la Genèse, au chapitre 5, « Zé sefer toldot Adam ». Voilà le livre des engendrements de l'homme. « Beyom bro Elohim Adam, bedmut Elohim asaoto » au moment où Dieu a créé l'homme à son image, etc. Mais quand ce texte vous dit « Voilà le livre des engendrements de l'homme », et puis ensuite on vous donne une longue généalogie, c'est bien qu'on a un certain sens de l'histoire, et un certain sens du temps. Et ce principe est fondamental. Alors, c'est pas un texte qui est très étudié, parce que ensuite, ça s'étend sur des tas de généalogies ennuyeuses, alors les gens, en général, ne lisent pas ça. Mais c'est pourtant fondamental, du point de vue de la civilisation et de la façon dont nous nous voyons. Donc, si on a cette idée qu'il y a une histoire, qu'il y a un commencement, ce n'est pas une évidence. L'idée de création du monde a été contestée très très longtemps. Dans sa controverse, Maïmonide, le grand philosophe médiéval, 13e siècle, Maïmonide a une controverse avec certains courants de pensée, mais surtout avec son maître. C'est qui son maître ? C'est Aristote. On ne l'a pas connu directement, il l'a connu par écrit interposé. Mais Maïmonide, qui est un aristotélicien, dit texto que Aristote, c'est un magnifique, extraordinaire, excusez-moi l'expression, goy, car ce gars-là, il aurait mérité d'être un magnifique juif, tellement il était intelligent, nous dit Maïmonide, sauf un point, où il n'a vraiment rien compris, il croyait à l'éternité du monde. Et là, Maïmonide dit, Aristote, super, et là, zéro, il n'a rien compris. Mais Maïmonide développe l'idée que ça, l'histoire de création du monde, il dit, je ne peux pas la démontrer. C'est une croyance que j'ai héritée de mes pères, il faut y croire. Parce que la logique est du côté d'Aristote, pas du côté de Maïmonide. Alors nous, on a les théories de Big Bang, tout ce qu'on veut, donc on voit les choses autrement. Mais Maïmonide, il n'avait pas le Big Bang encore. Maintenant, qui dit histoire, dit fin de l'histoire. Si on a un début, il y a une fin. C'est logique. Et là, je cite le dernier texte, théoriquement, je ne dis pas que c'est le vrai historiquement, mais théoriquement, le dernier texte de la Bible, je parle du point de vue juif, qu'est-ce qui clôt la Bible ? C'est Malachi. Le prophète Malachi. Malachi qui mal pense. En hébreu, Malachi. Malachi, il dit, je vous le lis en hébreu, c'est plus joli, « Inanochi sholach lachem et Elia Navi, je vous envoie Eliaou Navi, lifne bo yom Adonai, avant le venu de jour de l'Éternel, Hagadol vanora, le grand et redoutable. » C'est pas Adonai qui est grand et redoutable, il l'est aussi. C'est le jour en question. Veshiv lev avot al banim, il va ramener le cœur des pères sur les fils, velev banim al avotam, le cœur des fils sur les pères, ten avo vekiti et haaretz chrem, de peur que je détruise la terre. Donc on est dans des amorces, vous voyez, de textes apocalyptiques, et Malachi considéré dans la chronologie des prophètes comme le dernier. Et donc, il y a l'idée d'une fin d'histoire qui viendra. Et je dis, voici venir le jour. Alors, est-ce qu'il pensait que ça arriverait le lendemain, ou est-ce qu'il pensait que des siècles et des siècles, on lirait son texte en disant, oula, c'est demain. Mais le fait est qu'il nous introduit cette notion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une autre notion. Si on attend un futur, il faut aussi accepter, de notre point de vue, qu'il y a un futur, c'est pas, ça n'a pas de soi. Quand je vois j'enfonce des portes ouvertes, c'est pas vrai. C'est pas du tout. D'ailleurs, c'est le nom d'un mouvement, nos futurs. Et on n'est pas peur, j'ai oublié de me teindre les cheveux, mais la prochaine fois, j'en avec une crête. Et la question de l'acceptation du futur, c'est pas seulement de ce qui va se passer, vous voyez, mais c'est aussi accepter, ça c'est une chose, je ne sais pas si je me fais clairement comprendre, de ce qui va peut-être jamais se passer. C'est-à-dire, il va peut-être se passer quelque chose, mais ça ne se passe jamais. C'est le problème du messianisme. Dieu se définit à Moïse. Quand Moïse lui demande son nom, Dieu lui répond, c'est vraiment une réponse de Gascon, comme quoi vous êtes, s'il y a des Gascons parmi vous, ça vous rassurera. Dieu est un peu Gascon, il répond, ayez, Asher, ayez, je serai ce que je serai. Alors avec ça, vous êtes bien documenté. Donc ça veut dire que, on peut le lire de plein de façons, cette idée-là, mais ça dit quelque chose quand même. Ça peut aussi marcher pour une réponse de Normand, je ne sais pas s'il y a des Normands, Savoyard peut-être aussi, je ne sais pas. Mais le fait est que cette réponse sous-entend que tu n'en sauras jamais rien. On peut le lire comme tu verras bien, c'est-à-dire que ça va arriver, tu vas le comprendre, mais ça peut aussi dire tu ne peux pas le savoir, parce que je serai ce que je serai. Et comme il y a toujours un derrière, un après, eh bien, il y a forcément quelque chose qui va t'échapper. Et c'est une définition de Dieu assez intéressante. C'est Dieu qui la donne lui-même, donc elle ne peut être qu'intéressante. Donc, du coup, ça amène à accepter, à l'idée d'accepter le présent. Et là aussi, ce n'est pas une évidence. Vous avez des tas de gens qui vivent soit dans le passé, ça c'est assez commun, il y a des gens qui vivent bloqués dans le passé, vous avez aussi des gens qui vivent obnubilés par l'avenir, mais ils vivent pas dans le présent. Alors, je ne sais pas, la caricature de ça, c'est les groupes américains qui se font fabriquer un abri anti-atomique, le remplissent de provisions, ils ont un trou dans leur jardin qui plonge à 70 mètres sous terre, ils sont prêts pour tout. Pourquoi pas? Mais ces gens-là ne vivent pas dans le présent. Ils passent une énergie, un truc dingue à construire leur trou et en attendant, aller se balader avec leurs gosses et faire du vélo, ils n'ont pas eu le temps. Vous avez des gens qui passent leur temps à se préparer après leur mort, mais vivre leur vie, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça existe aussi. Et c'est pour ça qu'accepter qu'il y a un futur, ça va vous amener normalement aussi à accepter éventuellement qu'il y a aussi un présent. Mais encore une fois, ça ne va pas de soi. Sans le piège, évidemment, d'être enfermé dans le présent. Parce que ça va être l'accès inverse. Il y a des gens qui vont dire, voilà, notre futur, je m'en fous complètement de ce qui se passera. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Ici et maintenant, ça les dégâts, les caricatures de ça, c'est la société de consommation. Donc je me fiche totalement des conséquences que ça peut avoir sur l'écologie, sur autre chose. C'est pas mon problème. Je veux tel et tel objet. C'est l'idéologie aussi. C'est très intéressant. L'idéologie, c'est quoi? C'est faire l'économie d'une pensée en marche. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui pense, il se fatigue d'abord. C'est fatigant. Mais, au-delà d'être fatigant, il est forcé, si vous pensez, de rentrer dans des nuances, dans des relativisations. Et il est forcé de dire « je n'en suis pas sûr ». Et s'il n'est pas sûr, il ne peut pas être dans l'idéologie. L'idéologie est forcément dans le présent, c'est-à-dire qu'on veut que ça se réalise. On veut avoir raison maintenant. On ramène un problème complexe à ce qu'on est soi, ou à ce qu'on pense être vrai, et donc on a à sa propre vérité. Et il y a un autre aspect du rapport au présent, qui est, ben, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a un autre dont je voudrais parler, c'est l'individualisme, qui là aussi a double tendance. C'est une tendance extrêmement négative, égoïste, mais également positive. C'est-à-dire de gens qui sont capables de s'assumer pour ce qu'ils sont. Ils sont capables de prendre leur essor en tant qu'individus. Et ne pas vivre toujours sous l'ombre du passé et la menace du futur. Vous voyez que cette notion de construction du temps par rapport à l'individu, par rapport à la psychologie, c'est fondamental, c'est pas une petite affaire. Alors, est-ce que le temps a un sens pour nous? Eh bien, je vais faire un petit jeu de mots. En hébreu, temps, ça se dit zman. Ben, zman, c'est la même racine que azmana. Azmana, c'est l'invitation. C'est une invitation, le temps est une invitation. C'est récent quand c'est comme ça. Et c'est aussi, c'est pas la même racine, c'est les lettres inversées. On aime bien faire ça en hébreu, inverser les lettres. De mazon, la nourriture. Ça nourrit. Donc, le temps est quelque chose de fondamental, en tout cas, de notre point de vue. Ça a donné d'ailleurs le titre d'un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, du rabbin Abraham Michel, et bien, qui décrit en fait les juifs comme des gens qui construisent des palais dans le temps, à travers les fêtes, le Shabbat, etc. Pourquoi? Parce que le temps prend le sens du fait de Shabbat, entre autres, qu'on lui donne. C'est nous qui donnons le sens au Shabbat. Le Shabbat en soi n'a aucun sens. Et le temps du Shabbat n'existe pas. C'est une fabrication. C'est nous qui lui donnons ce sens. Et on le lui donne comment? Ben, par le système du respect du Shabbat. C'est-à-dire qu'on donne de la sainteté à ce temps. Et si je ne fais pas l'effort de lui donner cette sainteté, ben, il n'y aura rien. Mais en même temps, le temps ne s'arrête pas. Donc, vous voyez, c'est comme si on avait construit le temps en lui donnant une valeur spécifique, du Shabbat, je ne vais pas me mettre à faire une conférence sur Shabbat maintenant, mais encore qu'on ait le temps d'ici Shabbat pour la terminer, mais et le temps, on ne peut pas l'arrêter. Parce que Shabbat a une fin. Et la construction que j'ai faite va s'écrouler à la fin de Shabbat. Elle s'écroulera pour être reconstruite plus tard, Shabbat suivant. Mais ce n'est pas une construction solide. Mais c'est une construction, c'est très intéressant, qui prend son sens dans ce que j'ai développé, passé, présent, futur. Si je n'ai pas de passé, Shabbat est le rappel de la création du monde. Présent, c'est là, maintenant, à ma table de Shabbat, si on est Shabbat, évidemment, et futur, parce que le Shabbat est une espèce de prémisse du futur. On le dit, on le chante même en hébreu, Mi'ein Olam Haba Shabbat Menucha. C'est un extrait du monde futur que le Shabbat de repos. Voyons, donc il y a cette idée qu'on lit le temps, qu'on a réussi à faire une fenêtre dans ce temps qui nous permet de mieux nous construire. Là, c'est l'idée du temps qui est c'était une chose, mais dans l'idée de la fin des temps, Apocalypse, fin des temps, hein, il y a une autre idée derrière. Il y a une idée qui est celle de l'angoisse. Vous connaissez la bonne phrase de Woody Allen, J'espère. Est-ce que être névrosé est nécessaire pour être juif? Non, mais ça aide. Alors, l'angoisse, je vais même vous raconter une autre blague. Qu'est-ce que fait un Ashkenaz si ça marche pas l'Ashkenaz? Qu'est-ce que fait un Ashkenaz quand il se lève de bonne humeur? Mais il se recouche, ça va passer. Bon, alors, l'angoisse. L'Apocalypse, ou plus exactement le besoin d'Apocalypse, parce que c'est un besoin. On a besoin de la fin des temps, et on a besoin du dévoilement, mais j'en suis pas encore au dévoilement. Ça va venir, on va dévoiler le dévoilement. Et alors il y a un besoin, il vient répondre à nos angoisses. J'ai dit tout à l'heure sur le plan historique, ça vient répondre à un moment de trouble politique, à un moment de trouble spirituel. Face à l'inconnu, à la conscience du temps, justement. S'il n'y avait pas conscience des événements, s'il n'y avait pas conscience du temps, qu'est-ce que ça peut faire, ce qui se passe? Mais c'est aussi une conscience de l'absurde du temps. Et ça, c'est angoissant. Si on réfléchit à l'absurdité de la vie humaine, l'absurdité de notre existence, l'absurdité de l'histoire qui ne repasse pas les plats, mais enfin, elle repasse un petit peu tout de même, eh bien, c'est terriblement angoissant. Et donc, on veut une réponse. Et l'Apocalypse vient apporter une réponse. Donc elle répond à cette angoisse. Je ne sais pas si c'est à prescrire, s'il y a des psychanalystes ou des psychiatres parmi vous, pour vos patients, mais vous me prendrez un petit tube d'Apocalypse, vous vous sentirez mieux après, c'est possible. En tout cas, c'est lié à des périodes d'incertitude et de crise, et notamment de crise identitaire, pas seulement de crise politique. Si on a une crise identitaire, on a une angoisse personnelle profonde sur ce qu'on est. Et du coup, on va chercher à se rassurer. Et ça, je pense que ce thème-là est très important à notre époque. Parce qu'on vit une époque où beaucoup de gens ont une crise identitaire profonde. Ça veut pas dire que le monde va plus mal qu'avant, il va plutôt mieux même. Il va pas terrible, mais enfin il va pas si mal que ça. Non, vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes angoissé. Je savais pas que je parlais devant une salle d'Ashkenaz. Je croyais que je venais à Annecy, des gens tranquilles qui vivent au bord du lac. Non, non. Le monde ne va pas si mal. Il y a eu des périodes bien pires que la nôtre. Évidemment, il y a eu des périodes un peu meilleures. Mais enfin, bon. Et ça ira mieux demain, je vous assure. Mais il y a un fait de nos jours qui est marquant dans la société, qui est marquant dans la plupart des sociétés actuelles, c'est la crise identitaire. C'est pas la crise économique. Ça va, tout le monde a à manger, il y a des chômages, on le sait, il y a des problèmes. Mais il y a eu bien pire. Regardez des récits historiques, même sur le début du XXe siècle, les conditions dans lesquelles les gens vivaient, ça va, faut pas se plaindre. Par contre, on est super angoissé sur le plan identitaire. On ne sait plus qui on est. Et le nombre de gens qui ne savent plus qui ils sont très nombreux. Et comme ils ne savent plus qui ils sont, eh bien, ils ont décidé de le devenir, je peux faire ce mot, puisqu'ils savent plus qui ils sont. Et quand on veut le devenir, eh bien, ça donne des résultats pas toujours très gais. Ça donne des résultats apocalyptiques, justement, parce qu'on veut absolument être quelque chose. Et on se raccroche à une vision de soi, qui est imaginaire, qui est fantasmagorique, et qui va mener souvent, pas systématiquement, mais à une vision apocalyptique. C'est extrêmement commun, notamment, parce qu'on est dans un cercle religieux, chez les gens qui reviennent à des fondamentaux religieux. qui sont dans une crise identitaire qui les ramène à une vision apocalyptique. Vous avez ça chez tout le monde. Chez les juifs, bien sûr, chez les chrétiens et surtout chez les musulmans. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe dans la tête d'un Mohamed Merah et autres comparses sympathiques. Donc, c'est évident que ce genre de types sont travaillés par l'angoisse identitaire et par un mouvement apocalyptique. Ça ne veut pas dire qu'il est allé lire l'Apocalypse, il n'a pas forcément lu. Il a peut-être vaguement entendu parler de quelque chose. Mais ça nourrit la psychologie. Et cette période de crise profonde, elle appelle à une réponse qui est justement claire parce qu'on se trouve dans le brouillard, et dans le brouillard on allume les phares, anti-brouillard, et c'est ça l'Apocalypse. C'est pas pour rien qu'on trouve les prémices de ce genre de pensée. Justement, le premier endroit où on le trouve, c'est avant Daniel, chez Isaïe. Prenez le chapitre 2 d'Isaïe, c'est le début d'Isaïe, mais Isaïe c'est déjà très nourri de ça. C'est pas de l'Apocalypse au sens propre, mais c'est déjà le prémisse. Voilà, il nous annonce ce qui va se passer à la suite des temps. Et il y a toute une description montrant Israël reconstruit, Sion, qui va promulguer la loi, et la parole de l'Éternel sortant de Jérusalem, etc. Et des glaives, on fera des charrues. Enfin, c'est la belle vision qui revient plus tard dans Isaïe. Mais il y a déjà l'idée, vous voyez, d'être un peu surréaliste, et il y a un jour où va arriver quelque chose. Isaïe réagit, c'est le début d'Isaïe, réagit à une crise majeure. C'est l'invasion par les Assyriens en -722 du royaume du Nord, Israël, la destruction de ce royaume. C'est une crise majeure. Isaïe vient y répondre. Et on va retrouver ce thème-là, d'abord dans le livre d'Isaïe beaucoup, mais on va le retrouver ailleurs. On va le trouver chez Ézéchiel, chez Zacharie, chez Malachi, qui eux vont être contemporains de la deuxième crise qui vient plus tard, 200 ans plus tard, qui est la destruction par les Babyloniens de Jérusalem. Et là aussi, il faut répondre à cette crise. Ensuite, on a nos autres écrits auxquels j'ai fait allusion, Daniel, qui est la guerre contre les Grecs, et ensuite, les troubles sous les Romains, toute cette période dont j'ai parlé dans mon introduction historique. Donc, on vient répondre à ça. Et si je continuais, c'est pas strictement sensu des livres apocalyptiques, c'est des écrits d'essence apocalyptique, si je peux dire, mais chez les grands mystiques, ils réagissent en général à des troubles politiques et essayent de lire les troubles et les traumatismes vécus à la lumière de la vision apocalyptique, c'est-à-dire d'expliquer si ces troubles vécus ne nous rapprocheraient pas de la fin des temps, ou est-ce que ça ne correspond pas à une forme de dévoilement. Dans le monde juif, on retrouve ces idées-là après les grandes crises. L'expulsion des Juifs d'Espagne va provoquer la naissance de toute l'école mystique de Tzfat, puis du faux messianisme de Shabbatai Tzvi. Et le chassidis va venir répondre aux troubles posés par Chmielnicki, ce sont les révoltes des Cosaques qui vont massacrer un tiers des Juifs d'Europe de l'Est. Donc, on a des crises majeures, il faut trouver des réponses. Et de nos jours, dans le monde juif, après la Shoah, il est logique qu'il y ait à nouveau des gens qui cherchent à répondre de la même manière, et il y en a. Donc, c'est un des rôles de ce genre de texte. On a aussi un autre rôle par rapport à l'angoisse, c'est l'angoisse du malheur individuel, du malheur pas forcément placé collectif, placé dans une histoire linéaire qui voudrait se dévoiler, mais du malheur chez moi, mon problème personnel. Et ça, c'est un autre texte que vous connaissez bien sûr, c'est le livre de Job. Et comment finit le livre de Job sinon par une apocalypse, au sens du dévoilement, non pas la fin de l'histoire, bien que ça soit pour Job la fin de l'histoire, mais mieux encore, regardez ce que j'ai décrit dans le phénomène de l'apocalypse, retour à la case départ. Qu'est-ce qui se passe dans Job? Bon, c'est pas les mêmes enfants, on en fabrique d'autres, bon, c'est pas grave. Et il retrouve tout. Et Dieu lui-même vient lui parler. Alors, c'est vrai que Dieu lui explique pas grand-chose, mais il lui a parlé. Donc on voit bien que ça répond à ce genre de choses. Ça nous amène à réfléchir sur l'histoire elle-même. Est-ce que l'histoire a un sens? Est-ce qu'il y a un sens à faire ressortir des événements historiques? C'est une grande question. Je peux très bien dire, et certains défendront, que l'histoire mène vers quelque chose, il y a du progrès. Bon, j'aime bien qu'aujourd'hui on croit moins au progrès que ce qu'on y a cru il y a une centaine d'années, mais avant la guerre de 14. La guerre de 14 a mis un arrêt à ça. La croyance dans le progrès. Mais pendant un temps, on était convaincus du progrès. Et même après la guerre de 14, il y a encore un mouvement qui croit de façon très ferme à une linéarité de l'histoire vers quelque chose de mieux. Aujourd'hui, c'est vraiment mis à mal, cette pensée-là. Mais est-ce que l'histoire elle-même a un sens? Est-ce qu'on construit quelque chose? Est-ce que ça vaut la peine de se forcer, de se lancer dans certaines aventures pour construire quelque chose qu'on pense meilleur? Les grands mouvements, enfin pas tous, mais pas mal de grands mouvements historiques sont nourris par ça. Et si je prends les périodes récentes, c'est vrai, évidemment, alors là, dès la Révolution française, je suis convaincu de construire une société quasi parfaite. C'est vrai des États-Unis, qui, au nom du paradis qu'on va construire sur la terre promise des États-Unis, est prête à mener systématiquement l'extermination des Indiens, parce qu'il faut bien, on a besoin de la place. Et ça ne les dérange pas du tout d'exterminer des Indiens pour faire place à une société parfaite et égalitaire. C'est quelque chose de paradoxal. Je vous signale que c'est dans la Constitution américaine au départ, enfin dans la lettre de déclaration, je ne me rappelle plus exactement dans quel document, que tout le monde, tous les citoyens, hein, sauf les Indiens. Et la deuxième chose, autre exemple, très négatif bien sûr, mais c'est le nazisme. Le nazisme, c'est le messianisme. Il faut que la nation allemande fasse des efforts. Une génération va se sacrifier sur les champs de bataille, mais ressortira de cette génération sacrifiée un Reich de 1000 ans parfait, pendant 1000 ans de bonheur. Pour 1000 ans de bonheur, ça vaut la peine de sacrifier une génération. Je parle du sacrifice de la génération des combattants allemands. Je ne parle pas du génocide. C'est nécessaire aussi dans cette vision-là, bien sûr. Donc, le fait de penser que l'histoire a un sens peut aussi être quelque chose de très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lui en donner. Ça veut dire qu'il faut voir tous les revers de médailles qu'il peut y avoir, mais aussi les côtés positifs. Parce que, après tout, si je prends les combats pour la liberté, que ce soit ceux des révolutionnaires français, je reprends les exemples dont j'ai parlé, que ce soit ceux des combattants pour l'indépendance américaine qui sacrifient leur vie sur l'autel de la construction d'une démocratie, et ils ont réussi à le faire. C'est vrai que les Indiens n'en ont pas profité, mais l'Amérique est une grande démocratie tout de même. C'est vrai des gens qui s'engagent dans des combats, comme ceux de la résistance, ils prennent des risques, mais ils savent que c'est la nécessité pour construire quelque chose de meilleur. Donc, est-ce que l'histoire a un sens ou pas? Il est évident que sans une certaine vision de du sens de l'histoire, il n'y aurait pas de grands combats pour de bonnes causes. Et ensuite, de ce point de vue-là, les prophètes bibliques pensent que l'histoire a un sens. Ça, ils en sont convaincus. Ils pensent que l'histoire a un sens et que, du coup, il ne faut pas désespérer du présent. Très important. Il y a une crise, mais il y a un bout au tunnel. Il y a également, et ça c'est compliqué d'en parler, il y a la théologie deutéronomiste, c'est-à-dire l'idée de la rétribution. Il vous arrive des malheurs, vous n'avez pas volé. C'est-à-dire que du malheur, il y a quelque chose à apprendre. Bon, c'est l'inverse du livre de Job, mais il y a quelque chose à apprendre des problèmes. Et c'est vrai au niveau de l'histoire collective, comme au niveau de l'histoire individuelle. Maintenant, il y a quelqu'un dans la Bible qui va vous répondre, mais ça ne va pas. Il n'y a aucun sens à tout ça. Et oui, l'Ecclésiaste, Coëlette, va venir vous dire, mais ça, le soleil se couche, le soleil se lève, rien de nouveau sous le soleil. Ton histoire n'a aucun sens. Tu t'enrichis, tu t'appauvris, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour les Katyushot, un temps pour les Scud, et un temps pour Kippa de Barzel, un temps pour... Tout ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ça mène nulle part. Donc, le même texte biblique, enfin, c'est pas le même texte, hein, un des textes bibliques, nous dit exactement l'inverse. Et de ce point de vue-là, s'il y a bien un texte anti-apocalyptique dans la Bible, c'est Coëlette. Très intéressant, vous savez que pour la critique biblique, c'est un texte tardif, c'est pas un texte récent. Enfin, c'est pas un texte ancien, on l'attribue à Salomon, mais il est considéré comme un texte récent, et donc quasiment de la période de Daniel et apocalyptique. Alors évidemment, qui dit histoire, dit tentation de la fin de l'histoire, d'arriver au bout, puisqu'il y a, s'il y a un fil linéaire, eh bien, il faut y arriver. Et du coup, il y a tous les dangers de l'apocalypse, mais il y a aussi les espoirs. Et c'est-à-dire que ça permet d'inscrire son histoire personnelle, notre histoire à chacun, dans la grande histoire collective. Dans le judaïsme, ça joue un rôle essentiel. Il n'y aurait plus de juifs depuis Belle-Lorette, sinon. Et comme c'est très dur d'être juif, comme chacun sait, d'abord c'est dur au quotidien d'être un bon juif, mais c'est dur d'être juif tout court parce qu'on nous cherche des noises tout le temps. Eh bien, si on n'inscrivait pas sa propre histoire dans une histoire collective qui nous transcende, on ne trouverait pas le courage, l'opiniâtreté, l'envie, le plaisir, parce qu'on a ce plaisir à être juif, c'est un plaisir immense même, mais quelquefois un peu amer, comme de certains bonbons, eh bien, on ne trouverait pas certains alcools, eh bien, on n'aurait pas ce plaisir-là si on ne se mettait pas dans une histoire collective qui a un sens. Et il y a une vision, d'ailleurs, messianique intéressante, que le Messie serait la somme de toutes ces petites histoires individuelles. Tous ces petits espoirs un peu minables, un peu... Sans grande importance, ces petits moments de courage qu'on n'inscrira pas sur les monuments, eh bien, le Messie serait le rassemblement de tout ça. Une vision intéressante d'aboutissement de l'histoire. Et du coup, chaque individu a mis sa petite pierre à cet édifice. Ça, c'est pour la question de la fin des temps. Maintenant, il faut que je traite de la question du dévoilement. Dans l'action du dévoilement, j'ai pareil, développé différentes parties. Il y a Dieu, d'abord, parce que c'est Dieu qui se dévoile. Du coup, je ne vais pas être trop long, je n'ai pas plus beaucoup de temps, mais, parce que c'est bientôt la fin du temps, n'est-ce pas? Donc, le Kesh Hayamim, c'est Dieu, il y a évidemment le connaissable et l'inconnaissable. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quelqu'un qui va me parler, que je peux même sentir, je veux dire, il y a des gens qui vont croyant, qui disent, voilà, je sens une présence, je ne sais pas l'expliquer, mais elle est là. Bon. Et puis il y a le côté inconnaissable, on va leur dire, attends, explique-moi, c'est un peu mieux, s'il te plaît, montre-moi, voilà, il n'y a plus personne. Il y a tout le problème. Passage de l'un à l'autre, du connaissable et de l'inconnaissable. Et la Bible, là, est truffée de ce genre de scène, de dévoilement dans le caché. Dieu se dévoile, mais ne se montre pas. Ce n'est pas pour rien que le texte mystique par excellence, Shira Shirim, le Cantique des Cantiques, est un texte érotique. On se dévoile sans se montrer, on se montre sans trop se dévoiler. Eh bien, on a cette idée-là également dans un mélange entre immanent et transcendant dans le texte d'Isaïe, Isaïe 6.3. C'est un peu très intéressant, Isaïe 6.3, que vous connaissez évidemment, parce que, quelle que soit votre religion, eh bien, ça sert de socle à la cérémonie. Je vous le lis en français, saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Kadosh, 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 Adonai Tzevaot, Meloko l'arrête, que vos dieux. On ne sait pas faire. Ça veut dire quoi ce texte? Ça vous intéresse? Sur Akadel, j'ai une conférence rien sur ce texte, qui touche un peu ça, mais rapidement. Le Kadosh, Kadosh, Kadosh sous-entend le côté inaccessible et transcendant de Dieu. Ce qui est Kadosh dans l'hébreu, Kadosh, la sainteté, c'est inaccessible. Le Kadosh et Kodesh à Kodashim, on n'y va jamais, on n'y entre pas, on n'a pas le droit d'y aller, c'est tel de mort. Et même quand on y va avec autorisation, on n'est même pas sûr de ressortir, on vous met une chaîne au cas où. Le grand prêtre a Yom Kippour. Donc, Dieu est séparé, Dieu est de l'autre côté d'un rideau. C'est pas la peine d'essayer d'y aller, il n'a rien à voir. C'est pompé, a fait cette expérience. Il est rentré, il n'a rien trouvé. Il était très déçu, le pauvre. Et la suite du verset, Meloko la reste vodo, elle est, la terre est pleine de son kavod, on traduit par gloire, mais kavod en hébreu, c'est son poids. C'est kovod, c'est son poids. Dieu pèse du poids. Vous pourriez, à la rigueur, arriver à le peser sur une balance. Donc, il est là. C'est pesable. Ça se ressent. Et donc, c'est complètement contradictoire avec Kadosh, Kadosh. Allez mesurer du Kadosh. Vous allez vous amuser. Du Kavod, ça peut se mesurer. Et donc, dans ce verset, il y a les deux notion. Dévoilement et caché, immanent et transcendant. Il y a aussi Dieu qui nous cherche, hein, Dieu qui s'adresse à l'humain, première chose, à Yéka, qui te trouve où là, t'es où? Qu'est-ce qu'il y a Adam? T'en es où de ton existence, monsieur Adam? Et il y a aussi Dieu qui nous échappe. Vous avez ça dans Isaïe 59, par exemple, au chapitre 59. Vous n'arriverez pas à le comprendre, vous n'arriverez pas à le voir, vous n'arriverez pas à même le penser. Donc, arrêtez d'essayer. Il y a Dieu qui se dévoile à nouveau, toujours dans Isaïe. Je reste dans Isaïe, mais je pourrais prendre d'autres textes. Dans Isaïe, chapitre 42, il se dévoile, mais il se dévoile pour mieux se revoiler. Donc, Ça, c'est Dieu, incompréhensible par définition, et c'est pas pour rien que dans le judaïsme, on ne dit pas son nom, on lit ce qu'on ne dit pas. C'est pas un exercice entre nous, je signale que c'est un des trucs qu'un gamin juif fait en apprenant à lire à l'âge de 6 ans, on lui enseigne les lettres, et dès qu'il tombe sur le nom de Dieu, ce qui va forcément lui arriver très vite, s'il apprend à partir d'un texte biblique, il dit « Ah oui, mais ça, faut pas le lire ». Enfin, il faut le lire, mais il faut le dire autrement que c'est écrit. Après, on s'étonne qu'on soit un peu perturbé, mais bon. Mais on est en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette question de cacher, dévoiler, et comprendre, pas comprendre. Le dévoilement, donc, c'est celui de Dieu, mais ce dévoilement se fait vers quelque chose, vers l'humain, vers l'homme. Mais l'homme, s'il y a un dévoilement, ce dévoilement l'aveugle. Ça aussi, c'est un des thèmes de la Bible. Quand il y a du dévoilement, il y a de l'aveuglement. Bon, on est encore dans le paradoxe. Il y a le manque de connaissance. L'homme qui s'approche de Dieu se rend compte qu'il ne connaît rien. Moïse est bègue. Jérémie, il est quasi analphabète. Il dit, je ne comprends rien, enfin, je pourrais en sortir une série comme ça. En même temps, chez l'être humain, qui n'a absolument pas de connaissance de toutes ces choses, tout en cherchant à les connaître, parce qu'on n'est pas loin de Genève, on a même le boson maintenant qui se balade sous Genève, donc on cherche à comprendre tout ça, parce que ça nous passionne, ça nous intrigue. Mais dans le fond, on sait pertinemment qu'on ne va rien y comprendre. On va y comprendre un peu plus, mais pas plus. Et en même temps, c'est aussi un thème biblique magnifique, c'est la capacité à entendre le silence. Ça, c'est la scène extraordinaire du Livre des Rois, de Élie au Mont Horeb, qui entend le silence. Dieu se trouve de Kol Dmama Daka, la voix de fin silence, c'est même pas un murmure, c'est une voix minérale. Il écoute la pierre et la pierre parle. Et l'être humain a cette capacité-là. Non seulement ça, mais il y a un bouquin intéressant qui a été écrit là-dessus, c'est le dévoilement des grandes théories scientifiques, avec plusieurs exemples. Dont Poincaré, le scientifique, hein, pas le politique, qui sont des gars qui passent des heures et des heures et des jours et des semaines dans leur laboratoire, sur le tableau noir, à écrire des équations, à faire des calculs, etc. etc. Ils n'y arrivent pas. Ça ne marche pas. Pour Poincaré, il va se balader parce qu'on a organisé une balade, il prend le bus, et tout d'un coup, en montant dans le bus, heure et quart, paf! Il fait sa grande découverte. C'est au moment où il ne pensait plus à rien que tout d'un coup, il comprend tout. Et ce phénomène se retrouve chez plusieurs scientifiques. Je ne dis pas que c'est systématique, mais chez plusieurs scientifiques. Vous avez également ça chez des artistes. Ils se bossent sur un truc, ça ne marche pas, ils ne trouvent pas la solution. La tournure de phrase, c'est des écrivains, ou le truc en peinture, hein, ça marche, ils vont se balader, ils vont faire je sais pas quoi, et paf, ils reviennent, ça a marché. Il y a une capacité d'entendre le silence. Il y a aussi une capacité chez l'humain à pénétrer le sens des choses, ce qui nous intéresse vraiment. Le pourquoi d'une œuvre d'art, le sens d'une œuvre d'art, c'est là où ça devient intéressant. Et il y a une capacité aussi à faire de sa propre vie à soi, de son propre être à soi, une masse d'interrogations intellectuelles et morales. Si on n'avait pas ces interrogations, ben on ne serait pas là ce soir. À quoi bon? Il y a un match de foot ce soir, non? Non? S'il n'y a pas de foot, ça m'étonne. Avec toutes les chaînes sur câblées, il y en a toujours. Non. Vous pouvez compter les points en Israël aussi, c'est aussi un match comme un autre. Donc, il y a cette capacité de l'homme. Ensuite, il y a un autre aspect. Puisqu'on a Dieu, on a l'homme, mais il y a les deux, il y a la rencontre, qui a priori ne devrait pas forcément se rencontrer, puisque c'est quand même deux entités profondément différentes. Et cette rencontre, c'est aussi un thème biblique constant, qu'on retrouve évidemment chez les patriarches, qu'on retrouve au buisson ardent chez Moïse, qu'on retrouve, j'ai parlé de Élie au Horeb, enfin on pourrait multiplier les exemples, et on retrouve chez Isaïe, quand il rentre au chapitre 6, la fameuse scène que le verset que j'ai cité tout à l'heure, sur Kadosh, 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 il est rentré dans un, il a vu des ailes, des visions, etc. Donc il y a des rencontres comme ça. Mais il y a Job, on l'a cité tout à l'heure, Job a cette chance de rencontrer Dieu à la fin de son bouquin, mais il y a deux écrits qui sont intéressants par rapport à la rencontre, qui sont peut-être plus proches de nous, parce qu'on n'a pas toute la chance de se heurter au buisson ardent ou à la voix de fin silence au forêt, c'est le livre du Cantique des Cantiques, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi? Parce que dans le Cantique des Cantiques, outre l'aspect érotique très intéressant, par rapport à la mystique, il y a l'idée d'un glissement, ça s'échappe. C'est un thème qui revient. Sur le plan de l'amour érotique, on ne peut pas posséder l'autre. Ça finit, c'est éphémère, l'amour est éphémère. Il y a un amour qui dure toute une vie, la séance amoureuse elle-même est éphémère. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que la belle s'échappe toujours. Elle s'est faufilée entre les murailles. Et ce texte-là nous montre bien que la rencontre, si on le prend le Cantique des Cantiques au sens mystique du terme, que la rencontre entre Dieu et l'homme, ou entre l'homme et Dieu, ce dévoilement apocalyptique, est éphémère. Et vous avez d'autres textes dans la Bible qui me semblent très intéressants sur ce thème, c'est les psaumes. Parce que les psaumes, la plupart des psaumes, pas tous, mais la plupart, sont des textes, de ce point de vue-là, apocalyptiques, c'est-à-dire au sens du dévoilement. C'est un thème qui revient constamment dans les psaumes. Le thème de la personne qui ne voit pas, qui est au fond du trou, qui est dans une certaine angoisse, et qui tout d'un coup sent que quelque chose prend sens, que quelque chose se dévoile. Je vais prendre le psaume 30, par exemple, très beau, sur Hanukkah et David. Vous avez une scène de dévoilement avec une joie intérieure intense. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Rien du tout. Ça décrit l'état d'un bonhomme qui est pris de doute, d'angoisse, hein, de mal-être, et qui, tout d'un coup, ressent quelque chose en lui et change d'état complètement. Donc, on voit que, dans tous ces textes, l'homme est à chaque fois trop petit. Moïse est bègue, je l'ai dit, le psalmiste, pas grand chose, etc. Trop petit, mais en même temps, il est transformé, il est habité par ce qui se passe, par l'expérience de dévoilement qu'il arrive à ressentir. Alors, je vais conclure, si vous voulez, j'espère avoir exploré quelques pistes intéressantes, mais j'ai fait allusion, enfin on en a parlé un peu tout à l'heure, à la question du dévoilement dans l'histoire. Parce que c'est quand même de ça dont ça parle après tout, avant tout, l'Apocalypse. Si je prends le dévoilement au niveau du psaume, ça c'est des choses individuelles, c'est des expériences qu'on peut ressentir en se promenant le long du lac. Mais dans l'Apocalypse, pris dans un sens plus étroit du terme, c'est un dévoilement de l'histoire. Et là, du coup, ça rigole pas. J'ai intitulé ma conférence « Rêve ou cauchemar ». On peut rêver, on a rêvé là-dessus. Mais on peut aussi cauchemarder. Et du coup, ça pose aussi un problème. Ça pose un problème à la pensée religieuse. Parce que l'histoire amène forcément à son interprétation. Et éventuellement, au fait de vouloir faire jouer éventuellement accélérer l'histoire ou lui faire jouer un rôle qu'elle ne jouerait pas forcément. Quand quelqu'un a dicté de pensée apocalyptique, eh bien, il va chercher à ce que ces fantasmes apocalyptiques correspondent à la réalité. Et si ça ne se déclenche pas tout seul, il faut peut-être aider l'histoire. Et là, ça rigole plus. Ben, c'est pas difficile. C'est le 11 septembre, c'est ça. Les attentats de New York, c'est un geste apocalyptique. Vouloir déclencher le grand conflit qu'on attend. Je vous signale que dans l'islam, il y a une apocalypse aussi, et notamment plus chez les chiites que les sunnites. En l'occurrence, on se trompe, c'est les sunnites. Mais il y a une pensée apocalyptique très forte. Et qui... ça fout la trouille. Ça fout la trouille si ces gens-là ont la bombe atomique. Un des problèmes de l'Iran atomique, je ne vais pas faire de politique, je ne suis pas là pour ça, mais c'est que ce n'est pas qu'un moyen de défense, la bombe atomique. C'est aussi un moyen d'attaque, et ça peut être un moyen d'attaque, non pas pour attaquer le monde entier, parce que ça, c'est pas forcément facile, il faudrait être armé comme les Soviétiques et les Américains pour le faire, mais ça peut être tout simplement le moyen de déclencher une réaction en chaîne qui, elle, ne peut mener qu'au dévoilement qu'on attend tellement. C'est un système de dominos, et c'est tout le problème de la question de la bombe iranienne. Et donc, ce n'est pas qu'un problème politique au sens purement de la géostratégie et d'équilibre des forces. C'est aussi un problème de savoir si des gens habités par une profonde pensée apocalyptique ne vont pas essayer d'utiliser éventuellement un instrument pour pousser à tourner les pages du texte apocalyptique. Et ça... c'est le cauchemar. C'est le cauchemar de penser que, en créant un trouble dans la société, on va enfin déclencher le grand soir. Mais c'est une pensée qui existe également dans des mouvements complètement religieux. Vous avez eu ça chez des maoïstes, vous avez ça chez les Khmer Rouges. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une pensée ancrée dans une pensée religieuse classique. Et au regard de certains événements, c'est là où il faut être très prudent, quand c'est complètement inscrit dans un texte qui a un sens et historique et religieux, ce qui est le cas de la Bible et ce qui est le cas de l'histoire juive. Alors ce qui est très intéressant dans le judaïsme, c'est qu'on a les textes, on a le scénario, on a l'histoire, on a les troubles, mais on n'a pas tellement de cinglés prêts à mettre le feu aux poudres. On n'en a pas trop, mais on en a un petit peu quand même. On en a un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple très facile à comprendre, l'assassinat d'Yitzhak Rabin est un geste apocalyptique. C'est-à-dire que l'assassin d'Yitzhak Rabin n'est pas un fou, c'est pas vrai, il n'est pas fou du tout, il est très rationnel. Il fait un calcul politique, je ne sais pas si on ne saura jamais peut-être s'il l'a fait seul ou non, mais il y a un calcul politique de mettre fin à un processus politique qu'on considère comme dangereux, et surtout qu'on considère comme dangereux. Pourquoi ? Parce que ce processus politique va à l'encontre d'une pensée messianique, une pensée apocalyptique. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement de l'histoire au sens où Israël conquiert des territoires qui lui sont promis, et tout d'un coup, on voudrait se retirer de ces territoires. Attendez, ça va pas, non? On va tout de suite à lire le bouquin à l'envers. Il faut surtout que le livre continue à se dérouler dans le bon sens. Et s'il faut assassiner un premier ministre pour ça, s'il faut passer 30 ans de sa vie en prison pour ça, qu'est-ce que c'est? On s'est sacrifié pour la bonne cause. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un geste de cinglé. C'est peut-être un geste c'est une forme peut-être de folie de croire à ce genre de choses, c'est possible, mais c'est un geste rationnel, c'est un geste calculé. Et c'est un geste qui s'inscrit dans une pensée apocalyptique. D'où la difficulté très grande dans les mouvements juifs religieux de faire marche arrière. Puisqu'on fait la guerre à Gaza ce soir, eh bien, au moment du retrait des implantations juives de Gaza, ça a été vécu par les gens implantés à Gaza, je parle des Juifs, comme une espèce de catastrophe. Mais pas à un niveau, cette catastrophe était peut-être au niveau individuel, dans le sens où des gens avaient investi dans leur village, dans leur maison personnelle, familiale, et qu'ils allaient devoir déménager, refaire sa vie un peu plus loin. Il y a des gens qui l'ont mal refaite, d'ailleurs, sachez-le. Mais ça, c'est le problème des gens qui perdent leur travail, qui déménagent, bon, c'est un problème que beaucoup de gens peuvent connaître. Mais c'est pas ça qui a mobilisé des milliers de gens pour venir manifester. C'est pas ça qui a, si vous voulez, nourri des scènes de gens qui sont mis en pleurs, qui sont mis en transe. C'est pas la raison. La raison, c'est que pour eux, le Messie retourne en arrière. Et donc, l'Apocalypse, le dévoilement, le rideau était en train de se refermer alors qu'il avait commencé à s'ouvrir. Et donc, cette pensée apocalyptique est présente, elle est vivante. Mais cette pensée existe aussi dans les rangs chrétiens. J'ai parlé des musulmans, mais chez les chrétiens également. Les évangélistes américains sont de toute évidence dans cette pensée-là. Et la raison principale pour laquelle ils sont aux côtés d'Israël mordicus, c'est parce que Israël, c'est le dévoilement. Et qu'il est hors de question de faire quoi que ce soit, marche arrière, sur des questions de concession territoriale. Parce que c'est beaucoup trop rationnel comme façon de penser la concession territoriale. Et donc, il y a une pensée comme ça. C'est pas parce qu'ils aiment les Juifs, ils s'en fichent des Juifs. C'est parce qu'ils aiment la Bible, c'est pas pareil. Ils aiment la Terre Sainte. Et donc, il y a une pensée apocalyptique. Alors, elle peut être utile, elle peut être pas utile, elle peut être dangereuse, c'est encore une fois à manier avec précaution, chacun y réfléchira comme il le voudra, mais c'est évident que cette pensée est vivante, et elle est vivante dans plein de systèmes. J'ai parlé des Maoïs, des Khmers Rouges, je pourrais parler des Indiens. Vous avez une pensée aussi apocalyptique dans l'hindouisme. Donc, c'est pas quelque chose qui est réservé au champ biblique. Sauf que nous, on s'occupe ici du champ biblique. Et donc, il y a un phénomène dont on est contemporain. J'ai commencé à évoquer ma brave arrière-grand-mère réfugié dans la région, mort de sa belle mort ici, la Shoah est une crise dans l'histoire juive majeure, mais si je me place non pas dans la mémoire des victimes et le côté souffrance humaine, qui est terrible, mais qui reste sans grand sens, si je me place du point de vue de la pensée apocalyptique, il doit bien avoir un sens à cela, quand même. Et s'il y a un sens à cela, ça ne peut arriver qu'à un dévoilement. D'où la problématique dans une pensée religieuse de penser à un tel événement. Et là, du coup, vous avez dans le judaïsme un véritable problème aujourd'hui, dans la pensée juive. Quoi faire avec un truc pareil ? Mais vous avez ce problème existe chez les chrétiens aussi. Et c'est très intéressant la façon dont le monde chrétien réagit. Le monde chrétien catholique et protestant européen, qui est un monde assez froid et rationaliste, ne veut surtout pas rentrer dans une pensée apocalyptique. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, me semble-t-il, il ne pense pas du tout l'événement. Ça fait un non-événement. Il le commémore, mais il ne le pense pas. Il y a beaucoup de mal intégrer l'événement, comme il y a énormément de mal d'ailleurs à intégrer la création de l'État d'Israël, qui est aussi un événement énorme. Après 2000 ans, les Juifs sont de retour. Incroyable. Et ils sont de retour, mais en 50 ans, ils ont construit une armée puissante, une vraie puissance économique. Et ils ont fabriqué, programmé, enfin fabriqué au moins un tiers de nos ordinateurs. C'est le deuxième Silicon Valley au monde. Et ça, le monde chrétien refuse de penser. C'est intéressant aujourd'hui. Le Vatican refuse absolument de penser. Et la plupart des protestants également. Ils font clairement la différence entre les Juifs et Israël. C'est deux choses complètement différentes. Et du coup, il y a une difficulté, parce qu'il y a une difficulté à se remettre dans le sens de l'histoire. Je ne juge pas, je décris les choses. Donc, cette pensée apocalyptique, elle est actuelle. Elle n'est pas qu'une question de deuxième, quatrième siècle. Vous voyez, deuxième siècle avant, quatrième siècle après. Le deuxième siècle après, on est 400 ans. Et du coup, ça m'amène à finir avec deux, trois citations. Pour le Talmud, je vais vous citer le Talmud de Babylone, son Sanhédrin, Amara, Ravadi, Lo, Ibré, Alma, et là le David. Ce monde n'a été créé que pour David. Je pose la question, pourquoi ce monde a été créé? Ben, ça sert à quoi tout ce truc? Il dit, ça a été créé pour David. Alors, il faut comprendre ce que représente David. Je pense que les chrétiens le comprennent très bien. Shmuel Amar, lui, dit, Shmuel, non, pas du tout, c'est pour Moshe, pour Moïse. C'est une toute autre vision des choses, c'est la loi. Le monde a été créé pour être dans l'ordre. C'est pas David, c'est pas du tout la même chose. Et Rabbi Yochanan, lui, dit, pour Mashiach, qui lui est une figure eschatologique, c'est Rabbi Yochanan, alors que David est une figure déjà existante, même si elle perdure dans l'histoire. Bon, c'est pas un texte facile à comprendre correctement, mais c'est un texte qui pense cela. Et d'après le Talmud de Psachim aussi, il y a le Messie existe en idée avant même la création du monde. Carrément, vous voyez, tout est déjà dans le ferment et déjà dans l'œuf dès le départ. Et il y a un autre texte que je voudrais vous citer également, que vous connaissez peut-être. Bon. C'est dans les Avot de Rabbi Nathan. On nous dit cela. Si tu es en train de planter un arbre, et que tu as ça dans la main, et qu'on te dit, voilà le Messie. Viens et plante ton arbre. C'est génial, ça. Quand, au lieu d'aller courir après le Messie, l'accueillir, il dit, continue à faire ce que tu veux. Plante ton arbre. Un arbre, ça pousse très doucement, au final. Si on est dans une pensée apocalyptique et c'est le jour de la fin, tu vois pas l'intérêt de planter un arbre. Quoique, oui, ça dépend dans quelle pensée on se passe. Donc, il ne faut pas s'affoler. Un autre texte qui nous dit ceci, c'est dans son Sanhédrin, qui nous dit qu'Israël n'a pas de Messie, carrément, à venir. Pourquoi? Parce que le Messie a déjà été donné au moment des Ézéchias. On a déjà brûlé toutes nos cartouches. Ça résout le problème. Ensuite, il y a un autre texte là, très humoristique, que moi j'aime beaucoup. Il y a un Talmud de Jérusalem dans le traité Tahanit. C'est une discussion avec Rabbi Akiva. Et il y a Rabbi Yochanan bar Korta qui répond à Rabbi Akiva. Ils discutent d'affaires messianiques. Ils sont en pleine révolte des Juifs à l'époque de Bar Korba. Donc en 135, les Juifs sont révoltés contre les Romains. C'est une catastrophe. Et à peu près 1 million de morts, enfin des trucs épouvantables. Mais les gens ne connaissent pas toujours cet épisode, mais fondamental. Et pour le judaïsme, pour la naissance du christianisme, la révolte de Bar Corba a joué un rôle très fort. Mais enfin donc, ils discutent, Rabbi Akiva et Yohanan Bar Corba, de cette histoire, et Yohanan Bar Corba, qui n'a pas la langue dans sa poche, répond à Rabbi Akiva, l'herbe te poussera entre les mâchoires et le Messie ne sera pas encore venu. C'est sympa, comme personne qui parlait autrement. Parce que les rabbins entre eux, ils sont des gens. Voilà. Donc, voilà pour l'Apocalypse, rêve ou cauchemar. Je vais finir par un petit psaume. Rassurez-vous, il n'est pas long. Mais je pense qu'il est lié à notre sujet. Il faut bien dire un petit psaume. Surtout dans le cadre de la JC. Je vous lis en hébreu, puis ensuite je vous lis en français. Shir Amalot le David, Adonai, Lo Gavalibi, Velo Ramu Hinai, Velo Halafi Bigdolot Uveniflaot Mimeni, Himlo Shiviti Vedomanti Nafshi, Kegamul Aleimo, Kegamul Alai Nafshi, Yachel Israel El Adonai, Meata. L'Adolam. Traduction. Poème des montées, Jeremiah, de David. Adonai, mon cœur ne s'enfle pas, mes yeux ne se haussent pas. Je ne m'insinue pas dans des grandeurs et des merveilles pour moi inaccessibles. N'ai-je pas rendu égal et silencieux mon être? Mon être est comme un nourrisson sur sa mère, comme un nourrisson sur moi, mon être. Israël souhaite Adonai, maintenant et pour toujours. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.
C'est surtout un grand merci, bien sûr. Moi, je reste quand même vraiment sans voix, ça m'arrive souvent en ce moment. Hein. Parce que c'est une grande, grande leçon. J'avais un mot qui me venait vraiment, c'était espérance. Et puis vers la fin, ben, c'était peut-être angoisse ashkénaze. Ça, c'est sûr. Mais c'est surtout des interrogations sur le sens de tout cela. Pourquoi ça a été écrit? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Même si vous nous avez dit tellement de choses, je crois d'abord qu'il faudrait réécouter. C'est tellement riche. Mais dans le ici et maintenant, on fait quoi de tout ça? On continue à vivre, on est dans le présent, ça c'est sûr. On pense un peu au passé, on pense au bon psaume, on pense à tout ce qui nous est dit, on pense à un futur, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une part de notre inconscient qui travaille là-dedans, ne serait-ce que ce qui m'est venu, oui, ces pensées, ces actes, apocalyptiques, est-ce qu'ils sont ici dans l'inconscient? Mais ils sont mis en acte. Alors comment décrypter ça? Comment est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'on doit passer par ça? On est déjà tellement passé par tout ça, tout au fil des millénaires, jusqu'à quand? Bon voilà, je pense que c'est les questions peut-être que vous allez poser. Moi, c'est ce qui me vient quand j'écoute tout ça. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué? Oh, voilà. C'est vrai, il faudrait des questions.
Alors évidemment, je vais redire merci parce que pour nous, c'est une source d'éléments de réflexion. On en a pour des semaines et des mois à réfléchir sur ce thème. Je voudrais aborder le côté positif. Je voudrais aborder le côté positif d'une vision, d'une pensée apocalyptique. C'est-à-dire, une pensée apocalyptique pourrait éventuellement nous permettre d'anticiper et d'éviter les catastrophes. Pour l'Europe, tout de même, la crise écologique, par exemple, on voit bien qu'à un moment donné, on aura peut-être aussi pas assez d'eau, pas assez d'air, peut-être aussi éventuellement une crise alimentaire. Enfin bon, tous les problèmes de pollution, d'intoxication, le nucléaire, entre autres. Et cette sensibilité d'un certain nombre de citoyens à une vision apocalyptique permet d'anticiper et de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre autrement, de consommer, de manger autrement. Et on pourrait l'appliquer sur d'autres domaines. À chaque vision apocalyptique, cette vision peut engendrer une capacité d'anticipation. Alors, on rejoint l'aspect que vous avez abordé, cette dynamique entre apocalypse et prophétie. Et le fait d'avoir une peur, le sens d'une menace, pourrait nourrir une anticipation, une prémonition, et de se dire, voilà, il y a des menaces, en fonction de ces menaces, est-ce qu'on ne peut pas les contourner, et finalement, par une vision apocalyptique, éviter l'apocalypse.
Les écrits apocalyptiques sont des écrits au sujet de comment l'homme a pu surmonter les problèmes de la vie, les faim, les guerres. Dans le subconscient, enfin. Je pense que avec les mystiques du Moyen Âge, on a à peu près la même chose. Les descriptions de ce qui se passe dans ma tête. Je pense que aujourd'hui, il n'y a plus le contexte religieux qui existait avant, parce que les mystiques devient normal dans un contexte religieux. Maintenant, ce sont des schizophrènes. Alors, sans le contexte religieux, on passe aux choses substantielles. Enfin, ce qui s'est passé à New York, par exemple, les guerres, enfin, les agissements de l'humanité sans un contexte où ils peuvent se placer comme un être humain dans l'histoire. Il est sorti de l'histoire. Voilà.
Écoutez, c'est une grosse question que vous posez. Bon, le sujet est évidemment lourd. Je pense à la dernière question, c'est mieux pour la mémoire. Écoutez, je ne suis pas certain que les mystiques soient forcément schizophrènes. Alors, c'est vrai qu'on vit dans un monde où les religieux ne jouent pas un rôle essentiel, encore que. Ça dépend, c'est pas si sûr qu'ils n'ont pas un rôle. Non, ils sont rangés chez les schizophrènes. Oui, là, j'ai bien compris. Mais je ne suis pas sûr, justement, parce que quand j'ai évoqué Star Wars en rigolant, c'est sérieux, Star Wars. Parce que si on regardait aujourd'hui la production, c'est une étude à faire, c'est relativement facile à faire, et vous regardez en pourcentage la production de films apocalyptiques d'un genre ou d'un autre, c'est énorme. C'est énorme. C'est vrai aussi en littérature, mais ce qui est intéressant en cinéma, c'est que le cinéma, contrairement au livre, coûte cher. Il exige une production, une organisation très lourde. C'est pas rien de faire un film. Et en plus, quand c'est des films avec des effets spéciaux, tout un tas de trucs, c'est encore plus compliqué, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais en effet, parce que évidemment, ça rapporte. C'est incroyable. Vous avez un nombre de films comme ça, ça marche du tonnerre. Et ça finit toujours bien, d'ailleurs. Pour le héros, en tout cas. Il y a toujours quelque chose qui va le sortir d'affaire d'une façon ou d'une autre. Mais moi, je pense que je ne suis pas convaincu que la pensée apocalyptique au sens de l'imaginaire, vous voyez, soit complètement parti dans le monde des gens schizophrènes. C'est des gens très rationnels, c'est des gens qui calculent leur budget, c'est des gens qui calculent leur scénario, qui réfléchissent pendant des semaines avec des équipes professionnelles sur ces questions, tout est réfléchi, et ça fonctionne, ça correspond à quelque chose chez le public qui ne le prend pas au sérieux, parce que tout le monde sait très bien que c'est du cinéma et des effets spéciaux, mais finalement, ça répond à quelque chose. Et moi, je pense que c'est un phénomène intéressant, et Star Wars est une vraie comédie, elle a un vrai conte, alors que vous avez tout un tas de films qui ne sont pas de l'ordre de la saga, justement, comme Star Wars, et qui répondent vraiment à une espèce de crainte de la fin du temps. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ça ait disparu, comme je suis pas sûr qu'au Moyen-Âge, vous n'avez pas cette idée politique aussi. Les croisades, ça mène dans ce registre-là. Qu'est-ce qui pousse des gens à partir, faire des centaines, des milliers de kilomètres, à pied, sur des routes incertaines, sans un sou? Je ne parle pas des croisades des nobles, mais des croisades des petites gens, massacrant tout le monde sur son passage, les juifs les premiers, bien entendu, mais tout ça pour aller délivrer le tombeau du Christ et puis penser à attendre un véritable dévoilement de leur victoire. C'est-à-dire que les gens partaient vraiment, ils ne revenaient pas en général d'ailleurs. Et certains revenaient, mais pas tous. C'est devenu même un sport très noble, puisque notre cher très bon roi Saint-Louis est mort en croisade, malheureusement. C'est dommage. Et il avait quand même pris le temps de brûler 24 quartiers de Talmud sur la place de Paris et de donner l'ordre d'enfoncer l'épée dans le ventre d'un juif et de la retourner pour que ça lui sorte les boyaux plutôt que de discuter avec lui. C'est ça, Saint-Louis. Mais il a quand même fini en croisade. Et donc ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Saint-Louis n'est pas un imbécile. C'est des gens qui sont prêts à partir, à délaisser leur royaume, leur château, leur belle, et tous les avantages qu'ils ont dans leur monde, pour mener une aventure qui a peut-être des intérêts géostratégiques également, mais quand même qui sont avant tout motivés par une vision apocalyptique de l'histoire. Alors, ça ne donne pas que des catastrophes, hein. C'est pas forcément mauvais. Je n'ai pas dit que, pour rebondir sur votre question, je n'ai pas dit que c'était forcément mauvais. C'est aussi ce qui fait avancer. C'est par exemple l'idée, j'ai évoqué un peu la recherche scientifique, le CERN, la course aller sur la Lune, etc. Alors, qu'est-ce qui pousse l'être humain à faire ça? Il y a des intérêts, on se dit qu'au bout du compte ça rapportera de l'argent, ça ouvrira des possibilités, c'est de la vérité, ça en ouvre. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a quand même une quête de comprendre ce qui est caché. de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Et finalement, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? Soi-même. C'est marcher sur la Lune, voilà, grand pas pour l'humanité. On cherche à comprendre l'humain lui-même, au bout du compte. On sait très bien que sur la Lune, la poussière de lunaire n'a pas grand intérêt. A priori, on espérait peut-être y trouver des choses extraordinaires, mais bon. Et je suis donc là-dessus, je crois qu'il faut faire attention de ne pas ranger l'Apocalypse à des choses dramatiques. Ce n'est pas que cela. Moi, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que la pensée apocalyptique, elle est à double tranchant. Du coup, par rapport à votre histoire de précaution, de la politique de précaution, parce qu'on est capable d'imaginer le pire, du coup, on essaye d'éviter le pire. Bon, ben, ça, c'est le principe de toutes les politiques de précaution, quelles qu'elles soient. On va vous prévoir un tremblement de terre dans la région et il n'y en aura peut-être jamais. Bon, c'est le principe même de gouverner, c'est prévoir. Maintenant, gouverner, ça peut être devenir paranoïaque. Aussi. Donc, pour prévenir quelque chose qui pourrait arriver, on peut devenir complètement dingue. Et c'est pas dit, par exemple, encore une fois, je ne suis pas venu pour faire des débats politiques, mais ou géostratégiques, qui d'ailleurs nous échappent, je pense, aux uns et aux autres, mais c'est pas du tout dit que dans l'histoire de la bombe iranienne, qui est de toute évidence une bombe un peu apocalyptique, que ce soit une bonne solution d'aller faire la guerre à l'Iran pour autant. Tout est à double tranchant. Donc, je ne sais pas quelle est la bonne solution. C'est pas du tout dit que éviter sortir du nucléaire soit la meilleure solution, si on veut débattre de ce genre de choses. Les Allemands s'en mordent un petit peu les doigts. Ils ont fait les doigts dans le charbon. C'est pas si sûr que ça marche si bien. C'est pas du tout dit que l'agriculture bio arrive à nourrir la planète, c'est pas, etc. Bon, là-dessus, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats, c'est des débats extrêmement compliqués, je ne suis pas habilité à le faire, mais il faut aussi se méfier de quelque chose qui devient un peu à la mode, qui est la peur du progrès. On veut dire que finalement, avant, c'était beaucoup mieux. Quand on n'avait pas les vaccins, c'est pas vrai. Et donc, il y a aussi cette pensée-là. Et c'est intéressant que dans l'Apocalypse, j'ai dit, il y a aussi l'idée de revenir au temps premier, au temps premier qui est toujours le temps merveilleux, le merveilleux temps des hommes des cavernes. Et donc, c'est une façon de sortir de l'histoire. Or, on est toujours dans l'histoire. On ne sort pas de l'histoire. Ça, c'était l'illusion, et c'est peut-être la désillusion de ma génération, enfin de la vôtre aussi, de nos générations, c'est-à-dire que on a cru un temps que voilà, on était sorti des problèmes. Enfin, c'est les 30 glorieuses, mais il y avait quand même une grande naïveté à penser qu'on était sorti des problèmes. Donc les problèmes, par définition, existeront toujours.
Tout à l'heure, parler du temps, et justement, je suis en train de travailler sur le problème du temps, et j'ai vu qu'il y avait deux mots en fait pour dire le temps. Vous avez cité un, Zeman, mais il y a aussi le mot et. Et il y a une prière qu'on lit juste avant le schéma Israël, où on dit ma chanitim ou ma khalif azmanim, c'est-à-dire qui change le temps et qui change le temps de façon différente. Est-ce que vous voyez une nuance entre ces deux?
Alors, ce qui est intéressant, bon, d'abord sur le plan de la construction littéraire, la prière est construite, c'est la littérature, avant tout, c'est la poésie. Et là, la poésie hébraïque aime beaucoup la redondance, c'est-à-dire rebondir sur le même terme. C'est-à-dire qu'on prend un terme et on prend son synonyme et on redit la même idée. C'est extrêmement commun. Dans les psaumes, ça revient très souvent. Et dans la prière elle-même. Et moi, je pense que le premier sens de ce Meshaneitim Umachrif Azmani, qu'on va traduire pour que tout le monde comprenne, qui littéralement change les temps ou répète les temps et change le temps, enfin c'est des synonymes, ou des moments, voilà, pour dire que c'est la prière qu'on dit parce qu'on constate qu'on a changé de temps parce que le soir est tombé. Je pense qu'il y a avant tout une fonction politique. Donc du coup, je m'en débarrasse, il n'y a aucun sens, c'est tout simplement poétique. Et ça revient très souvent. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du sens. Il me semble qu'il y a, dans les deux termes, j'ai fait exprès justement de pas parler de être tout à l'heure, c'est que Zman, c'est le temps qui passe. Alors que être, c'est plutôt l'idée d'instant, du moment. Par exemple, on dirait en hébreu en lizman, j'ai pas le temps, mais on dira leitim krovot, à des moments souvent, c'est-à-dire régulièrement. Donc, c'est pas tout à fait une idée du temps entre un moment et, même si c'est des moments qui se renouvellent, et le temps qui s'allonge. Une pensée séquentielle et une pensée linéaire. Voilà, je pense que du coup il y a une nuance, et si on dit méchané, je signale que méchané, ça veut dire changer, mais c'est aussi répéter, le Mishnah. Donc c'est le temps, c'est le moment qui se répète, le moment du soir qui tombe qui se répète. Et en même temps, les temps qui se marquent, qui se s'échangent, le temps du jour et le temps de la nuit. Mais c'est lié aussi au bien et au mal, parce que la nuit, c'est le mal, l'angoisse, là, le jour, le bien. Il y a un rapport avec l'apocalypse. On peut le voir. On peut le voir. C'est une bonne question, parce que si on travaille sur la liturgie, il y a dans toutes ces prières sur le, qui sont liées à un moment précis, sont liées à une idée. Apocalyptique, c'est peut-être beaucoup, mais enfin, un peu messianique. Oui, c'est lié à ça. C'est lié indirectement. Mais je ne vais pas me mettre à faire un cours sur la prière maintenant, c'est un peu long. Enfin, je sais que jusqu'à Shabbat, j'ai le temps, tout de même. Juste pour vous donner une piste de réflexion, c'est que si vous regardez bien la construction de cette liturgie, la question de Géoula, et il faut coller Géoula à la Tfila. Il y a la bénédiction, la dernière bénédiction du schéma, c'est Goël Israël. Et il faut le coller normalement à la Amida, à la prière elle-même. Et on le fait automatiquement dans un livre de prière, dans un sidour. Mais c'était pas si simple à faire aux horaires solaires, c'est ce qui exprime le Talmud dans cette brachot. Et du coup, il y a une difficulté. D'abord, de gérer son temps par rapport au lever du soleil, c'est la prière du matin, ça, mais l'idée se répète le soir, avec la pointe du jour, le Hamoud HaShachar, et il y a une difficulté de l'idée de coller son état intérieur à la rédemption collective, à la Géoula. Donc il y a une idée complètement mystique derrière toute la prière. Si vous regardez la construction de la prière, elle est construite autour de cette idée-là, même la Amida elle-même, donc la prière en silence, est construite autour de ça. Ce serait plus long à expliquer, puis là j'ai perdu mon auditeur qui ne comprend rien, alors je vais en parler hébreu, attendez, je ne vais pas me mettre à expliquer toute la liturgie maintenant, mais on reviendra pour ça une autre fois. Une bonne question.
Alors on va dire une dernière bonne question. Puisque le temps passe.
Alors, avant la question, je sais pas si je vais résumer, mais c'est difficile à résumer ce soir. Mais c'est vrai que c'était un véritable bonheur, a priori, de vous inviter. Bonheur pour tous ceux qui vous connaissent. Bonheur pour moi qui vous suis, pas au quotidien, mais chaque semaine j'ai invité là-bas, Académie d'Or Vador. Et puis ponctuellement, par exemple, quand vous répondez à Michel Onfray sur le livre de Soler qui est Dieu, je vous conseille ceux qui ont internet de rechercher ça, c'était le 12 août. Donc vous trouverez facilement avec Google, c'est un véritable bonheur. Et puis, donc bonheur a priori, mais bonheur ce soir, pour constater ce que vous nous avez offert, la richesse et la profondeur de ce que vous nous avez offert. Je ne vais pas résumer parce que c'est vraiment très difficile ce soir, mais je voudrais, avant la question, dire trois merci particuliers. Premier remerciement, c'est de nous avoir invités à prendre le temps de lire ou de relire Abraham Heschel pour nous aider à mieux bâtir le temps qui nous est offert chaque jour. Deuxième merci, l'invitation à faire refaire sans arrêt taire en nous, taire, T-A-I-R-E, ce qui nous empêche d'entendre ce que le silence peut nous dévoiler. Et puis, troisième chose, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, merci d'avoir... merci d'avoir eu le courage de dire certaines choses qui vous valent de profonde humilité. Par exemple, ce que vous avez dit au sujet de Yitzhak Rabin, de l'évacuation de Gaza, je ne parle pas de ce qui se passe en ce moment à Gaza, mais précédemment. Et puis, pas en contrepartie, mais à côté, et j'ai entendu à côté de moi, quelqu'un était étonné d'entendre ça, et c'est bien de leur entendre, de nous éclairer ou de nous rééclairer sur la sainteté de Saint-Louis. La lumière qui jaillissait de Saint-Louis, notamment quand il faisait brûler le Talmud. C'est ça qui lui donnait la lumière, peut-être. Et puis je voudrais faire un pas de côté, parce que j'ai eu un... Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'aborder, parce que c'est un très vaste sujet, mais j'étais gêné par un point que vous avez tout juste énoncé, que vous n'avez pas développé, mais peut-être que vous développerez ça une autre fois, un point qui est un désaccord, je ne vais pas regarder, mais un désaccord, c'est le seul désaccord avec un ami qui est ici présent. Vous avez parlé du déterminisme, la dimension déterministe de la littérature apocalyptique. Et ça, c'est quelque chose qui me pose beaucoup de... C'est une vraie question pour moi, qui me gêne énormément. Donc, vous nous avez dit, vous avez parlé du code moral, du code de conduite à observer, à respecter afin d'être prêt. Donc, question, quel est le sens, quel est le rôle de ce code si on est dans un registre déterminé? Même chose, comment comprendre la nécessité et l'urgence de faire teshuva, faire repentance, si on est réduit à n'être que des éléments d'une trame prédéterminée? Alors, moi, je ne me range pas du tout de ce côté-là, je me range de l'autre côté de la littérature talmudique qui dit, par exemple, toute chose est prévue par Dieu, cependant, la liberté du choix nous est donnée. Abot 3.19. Ou, autre mention, Dieu s'est plu à combiner les décrets du destin et la volonté humaine, de sorte que l'homme peut mettre dans ses actions de la vertu et du vice. Un peu tard pour arriver à...
Ouais, papa, il est tôt, papa. Pour moi, il est tôt, il n'y a pas de problème. L'heure du schéma n'est pas encore arrivée. C'est ça.
Non, c'est une bonne question. Moi, que ce soit clair, moi, je n'ai pas donné d'opinion et je ne suis pas lancé dans un débat sur le déterminisme. Qui est d'ailleurs un débat extrêmement difficile et je crois qu'on ne peut pas le trancher. Là-dessus, il y a quelqu'un d'intéressant à lire, c'est Henri Atlan. Mais la question de la pensée apocalyptique, moi je vous ai présenté ce que c'est que la pensée apocalyptique, qui est une pensée particulière, qui naît dans un contexte historique particulier, qui se développe dans ce contexte, et qui se clôt avec, je l'ai dit, 400 ans, de moins 200 à plus 200, c'est pas difficile, après c'est fini. Maintenant, ça nourrit, ce que j'ai montré, c'est que cette pensée nourrit, elle a des racines plus anciennes, en fait, puisqu'on l'a déjà en prémisse chez les prophètes, et elle nourrit une pensée plus tardive. La pensée apocalyptique est une pensée nourrie de déterminisme historique. L'histoire est écrite, l'histoire va quelque part. Maintenant, la question est de savoir si c'est compatible avec le libre arbitre ou non. Vous avez remarqué qu'il y a en effet une contradiction, puisque ce même texte nous appelle à une conduite morale. Si tout est déterminé, pourquoi être moral? Bon, il faut croire que dans ce déterminisme apocalyptique, il y a également une certaine dose de libre arbitre, puisqu'il y a ces appels à la conduite morale. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais si on regarde la pensée biblique, je pense une bonne partie de la pensée juive, je pense que dans le christianisme c'est plus ou moins la même chose, le déterminisme joue un rôle et le libre arbitre également. Mais en fait on cherche en général à aménager la chèvre et le chou. Mais ce qui n'est pas complètement absurde, c'est que dans le fond, on peut très bien avoir un déterminisme historique tout en ayant un certain libre arbitre. C'est-à-dire, vous pouvez très bien, si on se plante même de. Si on prend un exemple banal, facile à comprendre, vous pouvez très bien être pris dans un contexte historique particulier qui vous dépasse complètement, mais vous êtes pris dedans et vous n'avez pas le choix. Personne, c'est pas vous, c'est pas votre libre arbitre qui a choisi de déclencher un conflit, une crise, n'y est strictement pour rien. Vous êtes pris pieds et poings liés dans ce contexte historique. Par contre, si vous laissez le choix, vous êtes d'être un salaud ou pas. Dans ce moment-là. C'est ça, vous avez le choix. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas incompatible. Donc, je pense pas que la pensée apocalyptique soit une pensée individuelle. C'est d'ailleurs, j'ai cité comme livre qui comporte une dimension apocalyptique, c'est Job. C'est intéressant que c'est une pensée apocalyptique individuelle, mais Job a cette liberté formidable, et c'est tout le sens de l'écriture du livre de Job et de son épreuve. C'est de savoir s'il va être capable d'être libre dans cet déterminisme absolu qui lui tombe dessus. Là où Job, le personnage est génial, c'est qu'il reste un homme libre, jusqu'au bout. Et alors que tous ses amis lui disent « rentre dans le rang ». Et ça, c'est là où Job est un héros de la pensée, si vous voulez. C'est pas tant pour ce qu'il dit, c'est parce qu'il reste, malgré tout, un homme libre. Ça, c'est formidable, c'est une très grande leçon. Maintenant, c'est des questions extrêmement complexes, et il va de soi que dans ce domaine-là, le code moral a son sens. C'est pas parce que la moralité va pas forcément changer l'histoire. Ça, c'est la pensée religieuse débilisante, de dire « je vais faire une bonne action », et ça va changer le cours du monde, le cours de l'histoire, ou le fait que j'ai mis mes tchilines ce matin va faire en sorte que le train n'a pas déraillé. Bon, c'est un peu court, mais il n'empêche que il y a une pensée morale au sein d'une possibilité d'un déterminisme historique. ou scientifique, déterminisme physique. Maintenant, la part de la liberté de l'individuel et la part de déterminer au niveau même psychique, caractère, même moralité, bon, ça devient très compliqué, parce que quelle est la part de totale liberté ou non chez l'humain ? C'est le débat, on va pas les trancher ce soir. Pour votre allusion, vos compliments, merci d'abord, mais peut-être rougir, mais le... juste pour taper sur gentiment sur Solaire d'abord. Monsieur Jean Solaire sait qui est Dieu. Moi je vous conseille de le lire tout de suite. Un homme qui sait qui est Dieu, il faut le rencontrer tout de suite, ce type-là. Je ne comprends même pas qu'il n'ait pas été invité ce soir. Donc, ça aurait été plus intéressant que mes élucubrations. Il nous aurait été expliqué. Donc, voilà. Bon. Ah bah, ils comprennent quand même. Ils ont compris. Pour Solaire, maintenant, pour Saint-Louis, puisque les gens ne savent pas, je me suis permis de taper un peu sur le bon roi Saint-Louis. Parce que c'est un salopard, c'est tout. Et que Saint-Louis, mais aussi pour une raison de penser, il faut bien comprendre, moi je ne suis pas venu pour aborder ce thème, puisqu'on est en cas de amitié judéo-chrétienne, abordons-le. Un des problèmes de l'antijudaïsme chrétien repose sur la pensée apocalyptique. C'est que dès lors qu'on est à la fin des temps, qu'est-ce que font les substrats de gens qui n'ont pas compris que c'était la fin des temps? Et donc ça les rend insupportables. On est à la fin des temps ou on n'y est pas? Vous comprenez? Alors, le bûcher pour éclairer, bon, c'est pour se chauffer aussi, il fait froid à Paris en hiver. Mais il faut bien comprendre ça, c'est que la problématique de la pensée apocalyptique à la fois fait avancer des choses, mais en même temps, c'est son aspect négatif. C'est pour ça que j'ai parlé du temps, du passé, présent, futur, d'accepter de ne pas savoir. Ayez, achèriez, c'est très intéressant pour ça, mais je serai qui je serai, de Dieu, et de ne pas se dévoiler, justement. Si, pour Solaire, il sait qui. Il l'a mis au présent, ça. Mais, si vous voulez, il l'a mis au passé. Il sait qui Dieu a été. Dieu est mort, mais Solaire sait qui il a été. Alors, pour en revenir à ça, on doit arriver à comprendre une chose, c'est que, qui est à mon avis très important, le christianisme se veut l'accomplissement de l'histoire. C'est une des phrases, d'ailleurs, vraiment, un bec à six, insistait lourdement là-dessus. C'est une des phrases les plus, autant que je sache, les plus problématiques des évangiles, c'est « tout est accompli ». Si tout est accompli, il n'y a plus rien à accomplir. Et si des gens ne veulent pas comprendre que tout est accompli, eh bien on va le leur faire comprendre. Parce qu'ils empêchent que tout soit accompli. Donc, le problème, il est aussi ça. Il est lié à tout le même genre de pensée. C'est comme lié à Solaire. Si Solaire avait le pouvoir, et qu'il y avait des gens qui continuaient à croire en Dieu alors que Solaire leur a expliqué qui il était, eh bien, il faudrait forcément essayer d'aider autrement qu'en écrivant un bouquin, ces gens à cesser de croire en ce Dieu. Il faudrait les faire soigner, puisqu'on sait qui est ce Dieu. On est dans la ligne directe du camp de rééducation. Mais ça existait. Mais c'est ça la pensée de Solaire. Alors, il serait étonné que je le lui dise parce qu'il ne pense pas comme ça directement, mais il n'a pas forcément pesé les conséquences de sa pensée. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Solaire a écrit un livre pour dire qu'il est Dieu, qui est Dieu, c'est un affreux jojo. C'est un très mauvais bouquin, entre parenthèses, enfin peu importe. Et je dis ça parce que si quelqu'un continue à penser que Dieu est autrement que ce qu'on lui a montré qu'il était, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas compris, il faut le lui faire comprendre. Et s'il continue à croire en un Dieu qui est insupportable, eh bien, il faut absolument liquider sa croyance, éventuellement lui-même. Donc c'est pour ça que ça mène direct au camp de rééducation. Ça existait encore une fois. Donc, c'est la même chose. À partir du moment où tout est accompli, et chez Solaire aussi, là-dessus, il est aussi dans une pensée de l'accomplissement, puisqu'il a compris qui Dieu était. Eh bien, il va essayer de nous le faire comprendre. Il ne peut que détester des gens qui vous lui répondent « Moi, je ne comprends pas. » Et donc, voilà, et la pensée, je pense que cette problématique entre le temps accompli et celui qui refuse d'entrer dans cet accomplissement du temps, ce qu'ont été les Juifs dans l'histoire, eh bien, est logique, sur ce conflit logique, sauf à arrêter de dire que tout est accompli, à penser autrement, ce que le christianisme a fait depuis longtemps, entre parenthèses. C'est ça qui est intéressant. Dans le christianisme, il y a l'ambiguïté de l'apocalypse. C'est-à-dire à la fois tout est accompli, mais en même temps pas forcément. C'est-à-dire que c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on ne peut pas résumer non plus le christianisme à seulement de l'anti-judaïsme, c'est plus complexe. Et par rapport à Saint-Louis, dans une pensée chrétienne assez primaire, semble-t-il, est donc. Et pour lui, tout est accompli, et c'est absolument anormal qu'il y ait encore des gens qui n'aient pas compris cela, et c'est surtout encore plus anormal si ces gens sont intelligents. Si des gens idiots ne comprennent pas quelque chose, c'est tolérable. Parce que tout le monde tolère l'idiot du village. Mais si le gars en question n'est pas l'idiot du village, mais l'érudit du village, c'est insupportable. C'est pour ça que dans ce contexte-là, le geste de Saint-Louis donc, qui fait brûler le Talmud, c'est très embêtant, hein, sachez-le, parce que le Talmud n'était pas imprimé à l'époque, il était manuscrit. Donc il nous a cramé des bouquins qu'on ne retrouvera jamais. Mais si on brûle les livres en question, c'est parce qu'ils font réfléchir, et quand je dis que cette phrase de Saint-Louis qui disait, enfonce, ne discutez pas avec un juif, mais enfoncez-lui votre épée jusqu'à la garde, tournoyez jusqu'à ce que les boyaux en sortent, c'était ça sa phrase, et c'est parce qu'il y avait la trouille de discuter, justement. Et si les juifs étaient les idiots du village, on peut toujours discuter avec les idiots du village. On passe un bon quart d'heure, on va se moquer de lui. Et c'est exactement ça qui dérangeait Saint-Louis. Voilà, le bon Saint-Louis, sous son chêne. On va le laisser reposer en paix. D'accord.
Jérémie, je serai très brève, parce qu'effectivement, ce fut un grand temps, je pense que j'espère que vous dormirez bien quand même, que nous dormirons bien. Il y a quand même vraiment réflexion, mais à continuer à réfléchir, parce que je crois que c'est un tout début de sujet seulement, dans cette réflexion en tout cas. Seulement deux annonces. Une annonce à l'hôtel des Marquisats, vous savez que chaque année il y a la commémoration qui s'est faite de la rafle des enfants et des femmes à l'hôtel des Marquisats. Et ensuite, au début, il y aura donc la commémoration rappel de cette cérémonie organisée.